est là pour geeker pendant 2 heures, encore toutes les news, tout ce qui s'est passé sur l'actu jeux vidéo. Et on commence comme d'habitude par se servir un petit apéro, on allume sa console et on écoute Workless Playmore, un petit son pour commencer la petite soirée, et on se retrouve tout de suite après. Et nous sommes de retour toujours sur le 919, la radio RBS. L'émission c'est Workless Playmore par la chronique du geek. Et on commence, d'ailleurs je vais laisser tourner l'OST de Megaman X parce que franchement je kiffe.
Merci pareil.
Hein, voilà, on est d'accord, bah, c'est super. Bonsoir Elsa, comment ça va?
Bonsoir, ça va bien et toi?
Bah écoute, super, franchement au top, au top. On a aussi Théo avec nous, salut Théo, ça va?
Salut Nishan, ça va?
Bon, écoute, ouais, parfait, parfait. Et Arthur vient de nous rejoindre aussi dans le studio. Salut Arthur.
Salut.
Ça va?
Bah écoute, deuxième émission d'affilée en 2 semaines, tu vois, donc là, je suis chaud.
Là, t'es chaud. Ouais. Ouais, au max, parfait. Et plus tard, nous aurons notre intervenant, Pierre Buchy, qui devrait arriver.
Tout à fait. L'invité de la soirée.
Les 40 news qu'il a fait sur cette semaine.
On l'attend.
Ouais, exactement. Bah écoute, on commence par toi, Elsa.
D'accord, ben du coup, je vais commencer par une petite news un peu sympathique. Peut-être que Pierre sera là pour la deuxième, qui sera un peu plus sujet à polémique, peut-être. Mais du coup, je commence par un truc assez sympa. Dans le milieu du jeu vidéo, on avait déjà parlé plusieurs fois d'Humble Bundle, qui est un site qui propose souvent des promotions, des lots de jeux vidéo, où vous donnez une certaine somme d'argent, vous débloquez tant de jeux sur le lot. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils ont déjà un principe où il y a une certaine partie de l'argent qui revient à la charité, et vous pouvez choisir en fait même combien de l'argent revient à la charité, combien revient aux développeurs, combien revient à Humble Bundle. Et là, en fait, ils ont fait un pack spécial de 27 jeux qui s'appelle le Care Package Bundle, et qui est en fait un bundle dont l'argent va être entièrement déboursé pour des œuvres humanitaires, pour les victimes de catastrophes naturelles. Voilà, et on a quand même 27 jeux, comme je disais, à 25,49€, dont pas mal de jeux qui sont pas dégueux. Hein,
il paraît qu'il est super classe, le bundle. Ouais,
ouais, il y a quand même Darkest Dungeon, on trouve aussi le Telltale Minecraft Story Mode, Stardew Valley.
Stardew Valley,
j'avais demandé s'il y avait une thématique pour les jeux catastrophe naturelle ou un truc
alors,
comme ça.
Alors non, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un peu de
Darkest Dungeon,
pack.
C'est déjà une catastrophe naturelle en soi. Non pas que le jeu soit mauvais, mais il est juste affreusement dur, hein, pour ceux qui voilà, connaissent.
Affreusement injuste, en fait.
Ouais.
T'es rincé.
À la limite de l'injuste.
Il y a aussi Her Story qui était un jeu indépendant avec ouais des trames narratives
excellent.
Différentes.
Excellent.
Voilà, qui
génial. À faire à plusieurs.
Très bon jeu.
À plusieurs.
Ouais okay. Ouais à deux c'est.
Ah je savais pas que c'était un jeu.
Bah en fait on peut pas vraiment jouer à deux mais vaut mieux le faire avec un copain parce que en fait.
Voir mieux
ouais,
retenir les éléments.
En fait en gros c'est un jeu dans lequel vous n'avez accès qu'à des vidéos d'interrogatoire d'une femme.
Ah oui j'en ai.
Et vous devez
parler.
Trouver quel est le sujet en fait de ces vidéos. D'interrogatoire, parce qu'on sait pas, au début si elle a,
fait,
si elle a tué quelqu'un, si. Ouais, ça fait vraiment, ouais, voilà, avec les chiffres sur l'écran, etc.
Grave.
Vraiment comme interrogatoire de
13 décembre 2001.
Et on sait pas du tout, en fait, et oui, c'est vrai que la date a une importance dans les vidéos qu'on regarde.
Ok.
En fait, on sait pas du tout ce qu'elle a fait, c'est une jeune femme, en fait, elle doit avoir, je sais pas, une vingtaine d'années. Et en fait, au fur et à mesure, on passe de vidéo en vidéo, et en fait, on trouve les vidéos suivantes en tapant dans un moteur de recherche, des mots-clés. C'est-à-dire, par exemple, murder ou des choses comme ça. Et en fait, bah, avec ça, on trouve les vidéos suivantes et on doit comprendre ce qu'a fait ou n'a pas fait cette femme, qui est cette femme, etc. Et c'est sympa à faire à plusieurs parce que comme c'est assez sujet à interprétation, on peut avoir des avis différents, des débats et puis continuer le jeu. Excuse-moi, je t'ai volé ta news.
Ah non, t'inquiète, c'est cool que tu puisses détailler parce que moi je l'ai acheté mais j'y ai pas encore joué. Donc,
c'est vraiment un super
j'en
jeu.
J'en avais entendu beaucoup de bien, ouais, et c'est vrai qu'il me tente beaucoup.
La régie me dit que Pierre Boucher était arrivé pour ses news.
Ça y est.
On peut l'applaudir, on peut applaudir.
T'arrives au bon moment. Wouh.
Parfait.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, on va le laisser enlever son manteau, tout ça, faire monter la température. Non, mais c'est bon que je reprends. Dans ce bundle, on avait encore Dreadout, par exemple, Arma Gold Edition, Magica, qui est un petit jeu funky aussi à faire à plusieurs, complètement barré, Machinarium, Psychonauts,
oh,
voilà.
Machinarium, c'est une tuerie.
Un bon
magnifique.
Jeu vidéo quand même sympa et il vous reste un peu plus de 3 jours si vous voulez acheter ce bundle à 25,49€ de 27 jeux.
C'est moins d'un euro le jeu, parce que j'ai pas fait de bac S, mais par contre.
Il est très très fort, hein, calcul mental.
Voilà, donc effectivement moins d'un euro le jeu sur humblebundle.com. Et j'attaque ma deuxième news, où là du coup ça va être un peu moins bisous, le monde est joli. Mais la commission, en fait, enfin récemment, il y a 2 jours, si j'ai pas de bêtises, le 15 au soir, il y avait une news qui paraissait en Belgique sur une chaîne d'infos. Et en fait, la commission des jeux de hasard de Belgique a annoncé qu'il commençait une enquête sur Star Wars Battlefront 2 et Overwatch. Ouais. Et donc enquête sur quoi? Ben notamment lié au système de loot box. Donc pour ceux auxquels les loot box ne parlent pas, en gros, c'est un objet consommable en jeu qui est souvent un coffre en fait ou une boîte contenant une sélection d'objets aléatoires pour le jeu. Ça peut aller de choses tout à fait cosmétiques en fait, d'apparence ou de choses qui n'ont pas vraiment d'incidence sur les performances en jeu, à des objets
qui impactent le gameplay.
Voilà, qui impactent le gameplay effectivement.
Donc des armes complètement cheatées et ce
genre de trucs. Par exemple, voilà. Donc, il y a effectivement plusieurs problèmes hein, qui sont liés à ce système de loot box. D'une part, la dépense d'argent liée à l'obtention d'objets aléatoires. Ça, en fait, on commence à tomber au final vers le jeu d'argent, le jeu de hasard. Et c'est ça qui pose problème en partie, parce que du coup, les éditeurs devraient avoir un permis pour faire ça. Et l'autre souci, c'est pour la commission le risque d'inciter les mineurs à dépenser de l'argent en jeu par pression sociale. Ah. Et a priori, ce serait la première raison qui les aurait poussés à faire cette enquête.
C'est vachement intéressant comme
action. Gens,
oui,
hein,
oui,
qui
oui.
leur ont demandé de pousser ça. En conséquence, qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Dans le pire des cas, les jeux pourraient être retirés de la vente. Et les éditeurs pourraient être amenés à payer des amendes de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Non.
Ce serait le pire des cas.
Alors, honnêtement, je pense très honnêtement que ce pire des cas n'est pas du tout envisageable parce que ils se mettraient à dos énormément de lobbies en fait s'ils faisaient ça. Enfin, le jeu vidéo maintenant c'est une industrie qui est puissante. Blizzard, c'est des éditeurs. Oui, plus que le cinéma. C'est des éditeurs qui sont puissants. À mon avis, ils se laisseront pas faire et ils engageront aussi leurs juristes pour faire en sorte que le jeu reste en Belgique, parce qu'à mon avis, c'est quand même une bonne niche de gamers.
Ils doivent avoir de très bons avocats, je pense.
Et quel était l'autre jeu? C'était Overwatch et Battlefront. Bon, Battlefront, c'est un peu plus compliqué parce que de toute façon, tout le monde lui met une volée de bois vert.
Le problème entre Battlefront et Overwatch, désolé Pierre, juste très rapidement, c'est que Overwatch, c'est que des cosmétiques. Oui. On peut jouer, on peut avoir tout en jouant avec le temps, mais il n'y a rien qui impacte sur le gameplay. Donc à la limite, oui, pour l'achat aléatoire, c'est vrai qu'il y a une composante qui est difficile, mais bon, pas de gameplay impacté.
C'est juste du cosmétique.
Voilà. Par contre,
après,
Battlefront 2...
sociale, même pour le côté pression sociale, je peux comprendre.
Oui, tout à fait.
Mais après, l'autre grosse différence, c'est qu'Overwatch, ça va faire quasiment 2 ans qu'il est sorti, c'est maintenant qu'il s'y intéresse. Donc c'est aussi peut-être pour montrer le bon et le mauvais élève en fait au niveau légal. Du côté de Battlefront 2, tout le monde lui a craché dessus, au point que EA et DICE ont annoncé aujourd'hui qu'ils retiraient toutes les microtransactions jusqu'à ce que ça soit réglé, parce que
c'est une grande première.
Les gamers gagnent toujours. Rappelez-vous, les gamers,
ça a râlé parce que bizarrement, oui, c'était juste du foutage de gueule, quoi. Enfin, parce qu'ils avaient comme dit, oui, on baisse le prix des persos de 75%, mais derrière, toutes les récompenses en jeu étaient baissées de 75%. C'est-à-dire que c'était moins cher avec l'argent réel, mais c'était toujours aussi long en jeu. Donc merci, Yé. C'est quand même assez chaud, quoi, je trouve.
Ouais.
Battlefront 2, c'est...
Mais sachant que Battlefront 2, il y a des éléments qui impactent vraiment le gameplay, qu'on peut avoir.
Et des compétences, par exemple, c'est Gamekult qui en avait parlé à l'époque de la bêta. Pour Boba Fett, il y a une compétence, par exemple, quand il utilise le jetpack, et ça va lui réduire les dégâts qu'il prend. Quand la carte est niveau bronze, ça lui réduit à peu près 25 ou 50%. Quand en platine, donc le dernier niveau, après, il faut avoir plusieurs fois la carte en bronze, etc., pour monter, comme sur ce genre de jeu-là. Mais en platine, quand il utilise le jetpack, il prend 0 dégâts. Donc en fait, le mec qui est totalement pété quand il vole, et si le mec qui sert au minimum jouer,
voilà,
il
n'importe quoi. On est sûr de ça, parce que
sur la base, enfin, en tout cas dans la bêta, c'était le cas. Alors peut-être que depuis ils ont un petit peu descendu ça, mais ouais, c'était le cas. Ça montait à 100% de dégâts réduits quand il utilisait le jetpack, c'est-à-dire que pendant quelques secondes, il était invincible. Et voilà, et si tu voulais l'avoir, si tu payais, ça allait vachement plus vite, c'est quand même pratique.
Ouais.
Donc
c'est pour ça que j'ai jamais joué à aucun de ces jeux-là.
Bah oui, c'est
un jeu avec abonnement.
Et c'est pour ça que vu tout le tollé qui se sont pris, c'est normal qu'ils aient décidé de faire marche arrière. Surtout que derrière, il y a quelqu'un qui s'appelle Disney et qui pèse encore plus lourd que n'importe quel éditeur de jeux vidéo.
Ouais.
Et je pense que quand ils ont vu le tollé, parce que la cote en bourse de EA a chuté, mais de manière pas possible, les notes sont relativement moyennes pour Battlefront 2, je pense que Disney est en train de serrer les fesses. Et ils ont dit à EA, arrêtez de faire les cons, sinon on vous dégage, parce que même s'ils ont un accord, je pense que Disney paye et puis ils vont voir ailleurs.
Ouais, c'est ça.
J'ai une petite question, moi, parce qu'on parle des lootbox de Overwatch. Est-ce que les lootbox existe depuis toujours dans
depuis la sortie du jeu.
Oui, d'accord, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est vraiment bizarre qu'il s'y intéresse que maintenant.
Après,
on va rendre la news à Elsa, peut-être.
Ouais, j'allais dire si c'est que cosmétique, parce que moi je joue pas Overwatch.
Ouais.
Donc voilà,
c'est que des skins,
c'est
vraiment
que cosmétique, parce que du coup ça me surprend qu'ils embauchent pas non plus contre par exemple League of Legends. Il y a aussi des coffres.
Alors c'est pas pareil, parce que League of Legends, je peux mettre de l'argent pour aller acheter un skin particulier. Il y a pas ce côté
hasard. Oui, mais il y a quand même, tu sais, les coffres maintenant que tu peux ouvrir avec des clés. Alors on est d'accord, ça je sais pas si c'est le cas dans Overwatch. Dans League of Legends, ces coffres tu peux les gagner en jouant.
Oui, tout à fait.
C'est pareil dans Overwatch.
Dans Overwatch, c'est ça, c'est le concept même.
Les lootbox que tu peux acheter, tu peux les gagner en jouant.
À chaque fin de match,
que
ce soit défaite ou victoire, on gagne de l'XP.
Ouais.
Et quand on a fait un niveau, on gagne un coffre. Donc le coffre, en fait, tu peux l'avoir.
Et c'est les mêmes coffres que tu achètes.
500 heures et quelques sur Overwatch.
Avec du vrai argent.
Alors c'est les coffres que t'achètes avec du vrai argent, mais moi j'ai 500 heures et quelques sur Overwatch, j'ai eu énormément de coffres, j'ai pas mis un seul centime de plus qu'à l'achat du jeu.
Mais du coup League of Legends, ça marche un peu sur le même principe, c'est-à-dire que c'est des coffres effectivement que tu vas gagner, que tu peux ouvrir quand t'as obtenu les clés, pareil en
clés,
jouant,
ouais,
etc. Et au final, ces coffres-là, tu peux les acheter aussi dans la boutique avec du vrai argent.
Ouais, c'est
effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que du cosmétique ou...
D'accord, Overwatch c'est la même chose. Ce qui m'étonne de la part de la commission belge, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oui,
ouais.
C'est ça. Ce qui m'étonne de leur part, c'est d'avoir lancé cette poursuite, si on peut l'appeler comme ça.
C'est une enquête, c'est pas encore
une poursuite. Ouais. C'est d'avoir lancé cette enquête sur Overwatch et pas Hearthstone. Parce que Hearthstone, je peux acheter des paquets de cartes
où j'ai des cartes aléatoires.
Et là, il y a un réel impact sur le gameplay.
Mais je pense que de toute façon, c'est la porte ouverte à d'autres choses. Parce que justement, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Que je voulais en venir au fait que ça fasse des émules au final. Parce que en France aussi, hier soir, le sénateur de Saône-et-Loire, Jérémy Durin, sur Twitter,
qui nous écoute en ce moment.
Ouais, exactement. Jérôme, si tu m'entends. Donc il a fait une lettre en fait au président de l'autorité de régulation des jeux Donc l'Argel, A-R-J-E-L.
D'accord.
Des jeux en ligne, plus précisément. Mmh. Et donc, ils souhaitaient en fait que les éditeurs soient plus transparents. Mmh. Notamment sur, ben ça on va en parler après, c'est différents pays du coup qui ont essayé de mettre en place des moyens d'être plus transparents justement sur le système de lootbox. Et il fait aussi très bien la différence entre justement ce dont on parlait, les micro-actions, les microtransactions cosmétiques et celles qui sont pay to win. Et qui, celles qui sont pay to win en l'occurrence, ont des mécaniques propres aux jeux d'argent et de hasard. Okay. C'est effectivement celle-ci qui pose problème et il fait bien la différence entre les deux. Mais en tout cas, il fait un appel dessus, il essaie de sensibiliser et il parle donc également d'autres pays qui se sont penchés sur la question. Notamment la Chine qui, elle, a opté pour un moyen de transparence sur les probabilités de gains,
c'est exactement
en fait.
Ce que j'allais ramener.
Sur tous les jeux.
Ils ont demandé notamment à Blizzard pour Overwatch
et Valve
pour CSGO exactement, de demander les pourcentages de chances que vous avez d'avoir un élément classique, voilà, rare, légendaire ou épique. Parce que c'était encore flou et donc par la loi en fait qui est passée, ils ont dû donner les chiffres et on en savait un peu plus.
Même des fois, donc, chaque truc épique n'a pas forcément même le même taux de loot que l'autre et du coup c'était de manière précise combien chaque arme à un taux de loot et
pour CSGO parce que pour Overwatch
pour CSGO et du coup on se rendait compte que des fois il y avait 0,02% de chance de la looter,
c'est ça.
Mais c'est pour ça que ça coûte 600 euros sur le market Steam.
Voilà, il y a un réel marché qui est derrière. Non mais c'est vrai,
il y a
réel...
des gens qui en vivent, enfin hein,
c'est très intéressant.
Il y a même des youtubeurs qui font des vidéos lootbox, hein. Enfin
oui,
moi je,
ouais,
moi,
tout à fait,
je, alors moi je suis un gros profane de ça, mais là je suis tombé sur une vidéo qui était relayée sur Twitter où t'as un type de 13 ans à la voix suraiguë qui dit alors là je vais ouvrir un coffre, enfin il le dit avec sa voix suraiguë que je ferai pas à la radio.
Non on va éviter.
Et il hurle pendant à peu près 30 secondes en continu parce qu'il a eu un objet hyper rare dans sa lootbox, quoi.
Ouais,
et la
ça.
Vidéo elle a 100 000 vues.
Non mais après ça se comprend, s'il loot un truc rare non ça.
Oui non mais c'est vrai que ce soit étonnant qu'une vidéo où tu vois un mec loot un truc
rare, ça marche,
ce soit tellement intéressant,
c'est
quoi,
ça.
Tu vois, enfin c'est
ce que je trouve très intéressant comme débat, c'est le fait que ces loots là, donc on parle de CS:GO,
ouais.
De par leur rareté, ça provoque un marché en fait,
oui,
véritable, avec, on parle de vrai argent à ce niveau-là, d'un skin d'armes qui va coûter des centaines et des centaines d'euros. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que c'est fou, on peut sur des objets complètement digitalisés faire un marché entier.
Bah, alors justement, rassure-moi, il n'y a pas d'hôtel des ventes.
Si.
Ah si.
Ah bah si. Mais en fait, sur Steam, on peut justement. Bah justement, sur Steam, c'est qu'il y a le market Steam, donc il y a la boutique où on achète les jeux.
C'est la mini bourse du jeu vidéo.
Et après, entre joueurs, on peut se revendre les armes. Bien sûr, Steam se prend une commission dessus. Faut pas déconner. Mais non, il y a moyen. Par exemple, quand une nouvelle caisse sort, généralement, à sa sortie, elle va se vendre entre 4 et 5 euros, quoi. Je sais qu'un soir, j'en avais une, j'ai vendu dans un foulé 4 balles, j'ai même pas regardé le prix, j'ai mis 4 euros.
Elle était ouverte. Le plan,
oui.
Le prix des
armes
que tu
peux voir, après, il y a une cour, en fait. Il y a un cours aussi, et par contre, quand c'est récent, il n'y a pas de cours. Et du coup, tu mets le prix que tu veux. Et j'ai mis 4 balles comme ça, c'est parti dans la minute. Et j'ai eu 4 euros d'un coup.
Et après, c'est de la spéculation. Moi, on a tous su quand on a joué à Steam, on a lancé un jeu, on l'a refermé tout de suite, imaginons. Hein. Mais ça arrive que le fait de lancer le jeu active un événement sur Steam qui fait que vous avez une nouvelle carte. Les cartes, la grande partie, il y a des collectionneurs, mais par exemple, moi, je m'en fous personnellement.
Moi,
mais bon, pas grave.
Toutes.
Donc, moi, je les vends toutes pour avoir des joyaux. Et bref, après, à la fin, un sac de joyaux, ça coûte 1 euro et quelques. Donc, je me dis, bah, ça sera ça de prix sur un petit jeu. Bref, l'idée, c'est que cette carte, après, c'est de la spéculation. Est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends pas? Est-ce que je regarde le cours? Et ça se trouve, la semaine prochaine, la carte que j'ai eue qui valait 37 centimes, dans une semaine, va valoir 10,15 €. Et là, ça devient intéressant parce que sur les skins de CSGO, on parle pas de 2 euros, on parle de 560 euros, quoi. C'est incroyable.
Mais par exemple, justement, pour repartir sur ce truc de spéculation, c'est PUBG, j'en reparlerai encore après parce qu'il y a eu plein de choses à dire cette semaine dessus. Oui, je sais, j'en parle toutes les semaines, c'est pas grave. Mais en fait, à la Gamescom, il y avait des caisses. Parce qu'en fait, on gagne une certaine monnaie et on peut avoir du coup s'acheter des caisses en fait avec des cosmétiques. Et on n'y a aucun moyen de les acheter avec de l'argent réel. Sauf pour la Gamescom, ils avaient fait des caisses spéciales Gamescom où il y avait eu des artistes indépendants qui avaient fait justement des skins. Les caisses étaient gratuites à acheter, donc c'est-à-dire que c'était uniquement avec la monnaie du jeu. Par contre, il y avait des clés à acheter et celles-là, elles valaient à peu près 1 euro et quelques. Et c'était à 90% les revenus étaient pour les artistes. Et le truc, c'est que ces cassettes, du coup, on les achetait avec la monnaie du jeu, elles avaient un taux fixe. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, une caisse comme ça vaut 7 euros. Et j'ai les nerfs, j'ai tellement les boules d'en avoir pris aucune et de ne pas les avoir gardées. Parce que 7 balles la caisse, sachant que c'était pendant 3 semaines, il y avait de quoi se faire au moins 6 voilà. ou 7 caisses.
Le Jérôme Kerviel du jeu
vidéo. Mais il y avait tellement moyen de se faire. Ah, mais oui, mais il y a quasiment moyen de se faire 70 euros. Mais le truc, c'est que ça n'arrête pas de monter le prix.
Mais c'est ça, qui nous dit que dans un an, ça va pas coûter les centaines d'euros?
C'est ça, le truc, c'est que jusqu'à la prochaine Gamescom, limite, faudra savoir si c'est les mêmes caisses ou pas. Et si on sait d'avance que c'est les mêmes, les mecs, ils vont tous revendre directement avant que c'est super intéressant de suivre ce genre de truc.
C'est assez glaçant, ouais.
Ouais, mais en même temps.
Tu as le bon mot parce que c'est. Ça change des jeux entiers. On parle de Battlefield de avant. C'est effarant.
Après,
comme l'industrie du jeu vidéo peut déraper.
J'ai choisi de ne pas y jouer.
Mais après,
même si Overwatch, j'ai beaucoup de respect pour ce jeu.
Mais après, okay. Le truc, c'est que sur PUBG, justement, ça a aucun impact sur le jeu en lui-même, par contre.
Mais c'est ça. Dans ce cas-là, faites-vous plaisir.
Qu'ils se fassent plaisir, que les mecs se fassent 70 euros sur une caisse, mais voilà. Voilà, voilà.
On passe aux news suivantes.
Tout à fait.
Est-ce que tu en
si tu avais encore quelque chose,
juste pour finir, oui. C'était qu'effectivement, donc je parlais de la Chine qui avait annoncé les probabilités. Après, effectivement, a priori, les Royaume-Unis en sont un peu au même stade que la Belgique, c'est qu'ils sont en train de faire des enquêtes et voir comment est-ce qu'ils peuvent solutionner la chose. Et faut savoir que donc le fameux sénateur français qui a interpellé le président donc de l'autorité de régulation des jeux en ligne a aussi mentionné le secrétaire d'État au numérique pour que sur les microtransactions et les loot box voilà donc à suivre
en France.
On passe à la suite.
Oui.
C'est bon.
Pierre, Arthur.
Arthur.
Arthur. Vas-y Arthur.
Pierre est arrivé en retard.
J'ai cru qu'il allait me lancer, j'étais tellement refait.
Non, parce que si on te lance Pierre, en fait, je
c'est
vais
des
rentrer.
Des chiffres, et encore des chiffres.
Non, il y a pas
non,
que ça.
Non, on rigole.
Il y en aura un peu.
Donc j'ai quelques petites news assez rapides, mais en gros aujourd'hui c'est la journée des sorties. Donc on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais là c'est vraiment la sortie aujourd'hui. Il y a deux épisodes, deux jeux qui sortent. Le premier c'est la réédition, la à peu près 673e de Skyrim.
Et pas la dernière.
De Skyrim sur Nintendo Switch par Bethesda donc. Alors, quels sont, si vous êtes tentés, alors, à tous nos auditeurs, si vous n'avez jamais joué à Skyrim, vous êtes seul. Mais nous sommes là pour vous. Achetez le jeu, parce que c'est quand même une expérience. Achetez le jeu sur PC, sur machin, faites-vous plaisir. Bon, bref, la Switch, je vais vous dire ce qui est intéressant. C'est que, bon, déjà, en mode, donc vous connaissez la Switch, il y a un mode portable et un mode en dock, on appelle ça, donc branché à la télévision. En mode portable, le jeu est très beau et en 720p, très fluide. Aucun framerate, donc, image par seconde qui tombe en fait. On est toujours à 30 fps fixe, quel que soit le nombre d'ennemis.
T'allais me dire 60.
C'est vachement fluide quand même.
Non, c'est un petit troll.
Oui, c'est fluide à 30 fps.
30 fps constant.
30 fps constant et temps de chargement rapide. Plus rapide que sur PS3 et 360, qui était sorti à l'époque en 2011. Le point négatif, c'est qu'en mode donc sur votre télévision, c'est en 900p. En upscale, on dit, donc c'est-à-dire que ça va étirer en fait pour essayer d'avoir la résolution de votre télévision. Et du coup, on a vraiment un rendu niveau PS3 360 un peu délavé.
C'est un peu plus flou, ouais, du coup.
Sur les télés.
Donc pas top. Alors que pourtant, en mode portable, et c'est là où l'expérience est intéressante, parce que qui n'a pas envie d'aller oxyre des dragons dans son bus avant d'aller au boulot le matin? Je suis le premier à le vouloir. C'est très très beau en portable, c'est très très fluide, c'est vraiment sympa, les temps de chargement sont courts, comme je disais. Donc, belle expérience. Télé, bon. Soyez pas trop chaud sur ce mode.
Mieux d'y jouer sur PC voilà. Ou sur une autre console.
Oui, autre petit apport, il y a du motion control. Donc on connaît l'amour que Nintendo porte au motion control depuis la sortie de la Wii. C'est sur différents éléments de gameplay comme la visée à l'arc, comme la levée de bouclier pour se défendre. Donc ça c'est pas tip top. D'après les retours et même les tests sur le net, c'est pas tip top.
Pas tip top dans le sens quoi, c'est pas optimisé,
pas très précis. Et des fois il y a des problèmes avec l'arc, ça bouge un peu.
C'est plus gadget et c'est pour le kiff de dire vas-y, je sors mon bouclier comme dans Skyrim.
Voilà, c'est ça. Voilà. On peut se faire plaisir à sortir son bouclier une fois, deux fois, on le fera pas pour le reste.
Quand on s'appelle Florian, on le fera tout le temps parce qu'on s'appelle Florian.
En disant Fousroda et on est heureux.
Et c'est ça.
Après, l'idée, ce qui est cool, c'est que Bethesda n'a pas rendu la fonctionnalité obligatoire, c'est vraiment une option, donc tant mieux, pas de soucis là-dessus. Si vous branchez vos Joy-Con sur votre Switch, en fait, bah, vous jouez avec les contrôles classiques et c'est très bien aussi. Sachant qu'une belle option est présente, c'est pas récurrent sur les jeux consoles, bah, en fait, on peut remapper, donc remodifier chacune des touches sur la console pour dire, bah, je veux mettre le saut sur la touche B, la touche A, voilà. Tu avais une question ?
Non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que c'était le comment dire. C'était ce qu'on pouvait craindre de la Switch en fait. C'est vrai que moi j'y avais pas pensé personnellement. Maintenant que tu nous parles de ça, ça me saute aux yeux. Comment veux-tu faire en sorte que tous les jeux, y compris les jeux d'éditeurs tiers que tu adaptes sur Switch, aient un rendu maximum et de console next-gen à la fois propre sur portable et sur télé?
C'est
dur quand même.
Mais
c'est...
je pense que ça découle de la grosse R&D qu'a fait Nintendo pour développer sa console.
Oui, oui, oui.
Et c'est... Bah, on sent qu'il y a de la maîtrise et de la recherche derrière.
Là,
parce que...
c'est sur une télé Skyrim en 900p, 30 fps.
Ça vaut pas le coup.
Ça fait mal. Hein.
Donc, là, l'autre avantage par contre de cette version, heureusement, j'ai envie de dire, il y a tous les DLC qui sont présents. Les trois DLC.
Et ça, on le savait pas, ils avaient jamais communiqué dessus.
Le jeu est sorti. Heureusement, c'est présent.
Ouais,
donc, si vous avez envie de faire la quête avec les vampires ou genre de quête annexe, je les ai pas tous fait, les DLC. Enfin, j'ai pas fini le jeu, donc c'est pour ça que moi je pense.
Il y en a un qui est quasiment à Morrowind, enfin qui se passe sur une île de Morrowind.
Ouais, c'est ça. J'ai aussi à peine commencé cette quête, mais bref, si vous voulez les faire, elles sont présentes. Donc, ça, c'est un.
J'ai envie de te dire encore heureux parce que.
Encore heureux, merci.
Voilà.
Ouais.
Skyrim est sorti quoi, il y a 2 ans?
2011.
Non, 2011.
Il y a 6 ans.
Mais oui, il est sorti le 11 novembre 2011.
Tu peux pas te permettre de sortir un jeu qui est effectivement 6 ans aujourd'hui et de ne pas mettre les packs avec les DLC.
Tu t'appelles Electronic Arts et tu sors les Sims 4 sur console et tu sors pas les DLC avec.
Ouais, mais non, mais t'as vu que ça a été changé. Hein.
Ils ont changé
ça. C'est tombé cet après-midi ou ce soir. Je crois
que ça j'ai pas encore vu.
Justement, ils avaient enlevé ce système de.
Ça c'est microtransactions de Battlefront. Moi, je te parle des DLC des Sims 4 sur PS4 et Xbox One.
Mais ça, de toute façon, si j'ai bien souvenir, les Sims, ça a toujours été problématique sur console parce que tu pouvais pas avoir le même format que sur PC.
Là, justement, c'était la même.
DLC et tout ça.
Sims sur console.
Faut le vouloir. Mais là, c'est la même version que sur PC, sauf qu'ils ont mis les DLC à côté à 50 balles. C'est-à-dire que tu payes ton jeu 50 euros, tu as payé tous les.
Sur PC, non ? Ouais. Ah non, parce que là, c'est 50 balles la DLC ?
Mais sauf que ça sort 3-4 ans après. Tu sors le jeu 3-4 ans après à 50 euros, tu sors pas les DLC.
Oui, mais en fait, je sais pas comment dire, même sur PC, les DLC à l'heure actuelle, tu les payes au prix des DLC, même sur PC en fait. Et Electronic Arts, ça a toujours été la même chose sur la loi des Sims, jusqu'à ce qu'ils annoncent.
Le nouveau.
Et qu'on soit vraiment proche de la sortie du nouveau, ils baissent pas les prix. Il y a des soldes de temps en temps sur les DLC dont je profite, j'avoue.
J'aime les Sims, je
crache sur les microtransactions et tout ça, mais par contre, je jette les Sims.
Bravo, Elsa.
D'ailleurs, il y a une nouvelle extension avec les animaux qu'ils ont sorti le mois prochain.
Oui, ça a l'air cool.
Ils ont monté le prix au Brésil. Ils ont doublé le prix de l'extension au Brésil.
Ah, c'est ça. C'est une des extensions les plus attendues.
À une semaine de la sortie, ils ont doublé le prix sans aucun justifié. C'est la semaine d'Electronic Arts. Ils ont fait tous les bons choix. Voilà.
Les mecs sont bien.
Mais là ils sont au top.
Au max.
Allez, vas-y Arthur.
Bon bah tous les DLC sur Skyrim. Heureusement, on en parlait. L'autre point un peu négatif.
Attends, je vais juste faire un petit break.
Ah oui. Oui.
Jouer avec la manette de la Switch à Skyrim, c'est pas un peu compliqué quand même?
Non.
Donc comme on disait avant, on peut remapper toutes les touches comme on veut.
D'après
les retours des tests et des consommateurs, des joueurs, c'est une belle expérience.
Ok.
Ouais. Il paraît que c'est vraiment super sympa et que
final,
ça fait vraiment plaisir de redécouvrir.
Moi, je pense que ça doit être pas mal.
J'ai beaucoup de mal. Pour l'instant, j'ai joué qu'un seul jeu vraiment joué. C'est Street Fighter où effectivement.
Mais il faut la manette pro ou le pad.
Absolument pas qu'on ait pu porter un jeu comme ça sur la console, ça me dégoûte. Alors, heureusement, je joue avec le stick 8-bit do, mais sinon, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de croix de direction et le stick, il est catastrophique. C'est injouable.
Enfin, c'est catastrophique pour un jeu de combat.
Il faut préciser. Voilà, on m'a prêté aussi Zelda, mais bon, là, de toute façon, sur le timing, j'aurais pas le temps d'y jouer ni de le finir.
Mais fais-le.
Là, quand je vois franchement le rendu sur ce jeu, mais ça m'a dégoûté. Ouais. C'est peut-être pour ça que je suis vraiment dégoûté de la console. C'est que je me dis que techniquement ce serait une console qui ne pourra pas.
Jeux, en fait,
voilà.
Ou alors il te faut une manette, comme tu dis, un truc à.
C'est exactement ça.
Ou...
Peut-être qu'avec un FPS, peut-être que ça pourrait peut-être éventuellement passer. J'ai pas essayé Doom. Mais par contre, sur un jeu de combat aujourd'hui, un bon versus fighting.
Après, de toute façon, un VS fighting, il faut de toute façon ou ton fight pad ou ton stick.
Non, mais pas forcément. Tu peux jouer avec une. Tu pourras mettre de la
PS4. Est-ce que ça t'arrive souvent?
Ouais, mais la manette, c'est qu'on peut pas comparer avec PS4.
Mais après, la manette à 360.
On peut pas comparer avec PS4 au niveau des manettes. C'est pas du tout le même. même intérêt que Nintendo porte à
oui,
ses joueurs.
Attends, tu as, ouais, bien sûr, mais tu as une croix de direction qui est pareil sur la Switch, on est bien d'accord.
Oui.
Et tu as un stick, c'est pareil, tu as exactement.
Ouais, non, mais la manette de Xbox sont aussi généralement très mauvaises pour les jeux de combat parce que justement la croix elle est pas top. C'est de ce côté-là où Sony ont toujours été un peu mieux au niveau de la croix.
Oui, ça c'est clair, bon, après, ben, c'est. Mais là, franchement, je suis un peu dégoûté de ce que de ce, là, c'est bête. Hein. Pourtant, c'est autant je troll la Switch et compagnie, mais quand je vois le rendu, c'est pas moche, c'est bien, c'est sympa. Le concept est vraiment, le concept me plaît clairement. Après, ce qu'ils ont fait, je traite souvent de console émulateur, mais c'est exactement ça. C'est ça qui est dommage.
C'est tout un débat que j'ai traité aujourd'hui avec des collègues d'ailleurs. Ouais. Mais on pourra en reparler après parce que la Switch, son avenir et son utilité pour les joueurs. Il y a un côté très intéressant qui pourrait être de faire des réadaptations de plusieurs jeux, de pour les plus vieux la GameCube jusqu'à d'autres jeux et Wii U par exemple.
Ah oui,
Smash Bros
ouais.
pourrait être réédité par exemple. Et là la Switch pourrait avoir une vraie puissance pour les joueurs qui sont un peu nostalgiques, qui veulent retoucher à des vieux trucs, les Metroid Prime, ce genre de choses.
Un gros problème. Qu'est-ce qui va vraiment sortir sur la console alors ?
Bah, Nintendo va devoir sortir des exclus sur sa Switch. Et là, on a eu Zelda qui a été exceptionnel. On a eu Mario Odyssey qui est exceptionnel. Il faut qu'il.
Il y a Mario Lapin Crétin, il y a Xenoblade 2, il y a le Fire Emblem, il y a le Yoshi,
après,
le Kirby.
Après, on va pas s'enflammer.
Octopus,
je suis le premier à défendre la Switch. Je l'adore. On va pas s'enflammer non plus parce que c'est que la première année.
Ça se trouve, dans 3 ans, il n'y aura plus rien. C'est Golf Story.
Il y a plein pour l'instant d'exclus qui ont été annoncés sur la Switch et pour l'instant c'est pas le truc qu'on peut lui reprocher.
Voilà.
On verra.
Mais donc le point négatif sur Skyrim, malheureusement les enfants, il n'y a pas les mods. Skyrim c'est une expérience à part entière et les mods, les modeurs, c'est une énorme communauté qui a apporté énormément de choses. Et là sur Switch, il n'y a pas de mods. Bethesda ne s'est pas prononcé sur le fait qu'il y aura peut-être ou jamais des mods, donc on ne sait pas. Peut-être que Bethesda sera ouvert, mais je pense pas.
Oui, déjà, ils ont galéré pendant des années avec Sony. Sur Xbox One et PS4, il y a des mods, mais c'est ultra limité.
Sur la spéciale édition. Sur la spéciale édition,
c'est les mods en général, c'est quand même.
Ils sont très limités. Il y a 1 ou 2 gigas et il faut que ça soit Bethesda et le constructeur de la machine qui valide le mod. Donc, c'est très long. Il y a très peu de
choses. Mais après, je vais donner juste un exemple et on s'arrêtera là. Le mod SkyUI.
UI.
Et bah en fait c'est un mode qui change l'interface graphique qui était quand même absolument insupportable parce que quand on avait un sac rempli de plein d'objets, il fallait se taper tous les objets pour retrouver le sien qu'on voulait. Enfin c'était galère. Et il y a eu des modeurs qui ont créé un mode qui modifiait cette interface d'inventaire et qui améliorait grandement l'expérience de jeu. Et là sur Switch, on se retape l'interface de 2011. Donc ça fait un peu mal. Mais bon, passons, c'est quand même une belle expérience en mode portable, le jeu est fluide, stable. Donc très intéressant et on sent que Bethesda avec Doom et maintenant Skyrim commence à vraiment maîtriser le support de la Switch, donc à voir à l'avenir si on aura encore des petits exclus Bethesda qui vont tomber sur la Switch pour les joueurs de Nintendo.
Il y a Wolfenstein qui va arriver aussi
courant
2018.
Le 2 ?
Oui.
Ensuite, donc j'en parle très rapidement, on a une petite sortie aussi, petite, je dis un grand mot là, mais on a le dernier épisode de Pokémon qui sort aujourd'hui, Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune.
Le dernier avant le prochain quoi.
Mais alors c'est quand même un grand tournant pour Nintendo parce que c'est son dernier avant l'épisode Switch qui sera, et là on fantasme tous. Donc il y a moyen que la licence Nintendo, entre guillemets, meure aujourd'hui dans son format. Pour évoluer sur quelque chose d'autre. Donc, ce dernier épisode, qu'en est-il ? C'est.
Pokémon Stadium bis.
Ouais.
là, oui, mais. Ouf, ouais.
Non, ce dernier Pokémon, malheureusement, les tests sont plutôt contents, mais c'est plus pour dire qu'un Pokémon est sorti. Très honnêtement, ce qui est intéressant à regarder, c'est les retours des joueurs. Et c'est triste à dire, mais le scénario n'évolue pas du tout par rapport aux épisodes Soleil et Lune. C'est la même chose. Ce qui change, c'est le endgame quand vous avez fini l'histoire. Mais c'est après 15-20 heures de jeu. Le jeu est au prix fort de 60€, donc ça fait mal. Par contre, à la fin, il y a des fonctionnalités sympas. Il y a un mode avec donc le Pokémon Démanta qui ressemble à une Raymanta, en fait. Qui permet de faire un surf un peu bizarre, mais qui a l'air sympa en termes de gameplay. Donc une expérience sympathique. Et par contre, le côté pour les fans de la saga, il y a une arène en fait qui recentre tous les méchants de tous les épisodes de la saga. Donc on peut rejouer contre le premier Giovanni par exemple qui a un Mewtwo.
Cool.
Et ça honnêtement, ça me donne envie quand même.
Mais est-ce que tu vas mettre 60 balles juste pour affronter Giovanni?
Donc, honnêtement, je suis le premier fan de Pokémon et honnêtement, j'achèterai pas. Je l'achèterai quand il sera soldé ou je l'achèterai dans.
Il sera jamais soldé. Ça, c'est un jeu Nintendo sur une console portable.
Non, quand il sera soldé, j'irai. Je fais pas de pub malheureusement, mais j'irai dans un magasin qui revend des occasions, quoi.
Ouais, mais alors, tu le trouves comme à 40 euros au lieu de 60. Non,
mais 40 au lieu de 60, déjà, ça me fait un peu plus plaisir.
Parce qu'un Pokémon ne décote jamais. Faut le savoir.
C'est vrai.
Et un jeu Nintendo ne décote jamais de manière générale.
Exactement, ça. Stabiliser Nintendo, ça décote. Ça décote
parce qu'il.
Et du coup, c'est dommage la part de Nintendo d'avoir un peu négligé cet opus. Bon, après, il est bien fourni, il a une belle durée de vie, tout ça, mais bon. Niveau évolution, c'est, je vais pas dire du foutage de gueule, ça serait dire des gros mots aussi, mais c'est quand même dur pour les joueurs qui sont fans de la saga de voir peu d'évolution alors que c'est un nouvel opus, quoi. Donc dommage. Dernière petite news, on parle d'Overwatch.
Vas-y.
Hier est sorti le nouveau personnage de Overwatch, donc Moira, qui est une sorte
Ed. De. Ça c'était pour
Nisha. Ok, d'accord. Ouais.
Bon, je vais passer très vite dessus, mais c'est quand même une belle news. Bon, il y a eu des modifications de champions et tout ça, mais on va pas en parler. Ce personnage, bon, en gros, c'est une scientifique qui est experte dans la génétique et qui est capable de faire du soin de ses alliés et des dégâts aux autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au niveau des dégâts, elle a pas du tout de munitions, elle a pas du tout de recharge, donc ça peut paraître fumé. Mais en fait, l'idée, c'est que si vous soignez vos alliés, parce qu'il y a un teamfight qui est difficile, il faut tenir toute l'équipe, et ben vous avez une jauge qui se vide, qui se remplit très 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 lentement, et donc le seul moyen de remplir cette jauge à un niveau acceptable, c'est de faire des dégâts aux autres. Et donc là, on se retrouve avec un healer qui a un gameplay hybride, où on est obligé quand même de faire partie du combat et pas être comme un personnage comme Ange, par exemple, qui a le bouton gauche appuyé et qui heal ses alliés et qui ne fait... Bon, si, elle fait d'autres choses, mais 80% de son gameplay, c'est ça. Donc là, on a vraiment le côté « j'implique mon healer ». Et donc, c'est très très intéressant et très fun à jouer. Je l'ai essayé hier soir, c'est vraiment... Bon, il y a d'autres capacités dont je vais parler, mais il y a Théo qui voulait dire un truc.
Vends-moi du rêve.
Ouais.
Il y a de persos jouables dans Overwatch.
J'ai pas le chiffre exact, mais il y en a plus de 25. C'est entre 25 et 30.
Ouais, un peu plus de 30 peut-être. Ouais.
Même roster que Street Fighter 5.
C'est ça, en fait. Je cherchais une analogie avec le versus fighting.
Mais il n'y a pas besoin d'avoir
un jeu de combat où il y a 16 personnages.
Il y a beaucoup de personnages. Ce qui est intéressant, c'est que chacun des personnages a une identité qui lui est propre et un gameplay qui change. Donc ça, c'est vraiment sympa.
Aussi dans Street Fighter.
Justement, comment tu choisis ton personnage?
C'est l'expérience. Tu joues.
Les 32, quoi.
Ah oui, tout à
mais
fait.
Mais il y a un mode entraînement et tu le testes lui sur compétence et tu vois déjà si t'as un bon.
Il y a un mode entraînement, ok, mais il y a un autre mode.
Au moins 32 heures de jeu pour choisir ton perso, quoi.
Une heure, tu
non,
pas
non, bon, après, jouer, voilà, même après tu sais déjà si tu joues agressif.
Après, il y a facile.
C'est pas faux.
Il y a des affinités aussi. Aussi, forcément au début, si jamais être tank ou si jamais être healer, on va partir dans une direction. Dans chaque classe, il y a à peu près entre 4 et 7 champions, il me semble. Donc il y a quand même de quoi.
Je pense que ça me rendrait dingue parce qu'en fait, j'aime bien quand il y a des jeux à roster comme ça.
Ouais.
Savoir
après il faut
vraiment précisément tous les persos,
mais ce qui est intéressant pour profiter pleinement de l'expérience pour profiter pleinement de l'expérience et surtout jouer en partie classée par exemple, c'est qu'il faut avoir joué à tous les personnages pour les connaître, parce que quand on joue en face d'un mec qui joue tel perso,
bien sûr,
il faut le connaître
comme un match-up dans
Street Fighter, exactement. Mais après il y a un mode dans Overwatch qui est un mode héros mystère, qui en fait quand vous jouez vous avez un héros aléatoire et quand vous mourrez vous ressortez avec un nouvel héros que vous choisissez pas, donc ça permet aussi de toucher un petit peu, c'est sympa. C'est des fois c'est complètement pété parce que l'équipe ennemie a eu de la chance sur l'aléatoire et vous écrase, vous avez aucune chance. Bon bref, ça arrive, mais bon, c'est toujours sympa, ça permet de toucher un peu tout le monde. Revenons sur Moira très rapidement. Elle a une autre capacité qui est exceptionnelle, c'est le j'en ai pas parlé. Quand elle fait des dégâts aux ennemis, elle a du vol de vie. Ça c'est puissant. Ça change aussi la donne par rapport à d'autres personnages et ça rend le personnage intéressant. Son autre capacité qui est très fumée, c'est elle peut se téléporter. Elle devient invisible, complètement invulnérable et elle disparaît carrément de la map. Par exemple, il y a des ultis, il y a un sniper fatal qui permet de voir tous les personnages à travers les murs pendant quelques secondes. Mmh. Quand Moira fait sa capacité de téléportation, on va l'appeler comme ça, elle disparaît même du champ de vision de la sniper.
Sa TP, elle fait quoi?
On garde le contrôle de son personnage et on se déplace très vite pendant un court temps. Et moi, on peut choisir où on va. On peut faire un zigzag, ce genre de choses. Ce qui fait que ça permet d'échapper à des ultis, ça permet de sortir, d'avoir une escape assez faramineuse. C'est très très puissant comme capacité et ça peut renverser une situation. Ou même rentrer dans le tas pour aller le plus vite possible.
N'importe quoi, je fais tout.
Mais c'est...
Je l'avais en tête. Je m'imagine un tel bordel dans une arène, en fait.
C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer à ce jeu.
Quand on connaît pas, c'est une galère. Pareil, les Coupes du Monde.
Nous, on est les relous, hein, mais j'ai précisé avant que j'avais beaucoup de respect pour Overwatch.
Il y a eu, par exemple, la Coupe du Monde d'Overwatch à la BlizzCon il y a peu de temps. Si on connaît pas, quand on regarde les streams ou les lives, oh là 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 là, c'est incompréhensible. Mais après, c'est jouissif à regarder. haute capacité, donc il m'en reste plus que deux. Là, il y en a une, c'est le, elle a une sorte de boule qu'elle envoie en fait dans le décor. Cette
elle
boule.
Fait de l'Hadoken aussi, c'est pas mal.
Bah oui, ah, donc elle fait un Hadoken. Alors il y a deux références qui sont belles.
Qui sont invisibles, qui se téléportent.
Alors elle se téléporte, elle met pas les doigts sur le front, mais presque. Elle a un Hadoken. En gros, c'est une boule. Et en fait, avant de la lancer, donc vous appuyez sur la touche Mage de tête. Oui, c'est ça. Vous appuyez sur la touche Mage. Et là, vous activez
elle lève
donc
ses bras
un
au
choix.
Ciel et elle fait Genkidama. Et...
vous avez un choix. Donc elle lève ses deux mains. La main droite, c'est une boule de dégâts. Donc elle lance la boule. Ça, tous les ennemis qui sont à peu près proche, il y a une petite portée, prennent des dégâts, et la boule, sachant qu'elle rebondit contre les murs. Donc si vous êtes dans un endroit fermé, tac, ça fait très 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 mal. Et l'autre, main gauche, elle lance une boule pour heal les alliés. Et donc là, en fait, c'est, le personnage est vraiment dur à prendre en main parce qu'il y a sans arrêt, à n'importe quel moment quand vous jouez, il y a ces choix à faire. Est-ce que je heal, est-ce que je fais des dégâts? Et c'est, ça fait que c'est, on peut se retrouver à se faire écraser ou alors à dominer complètement. Donc c'est un personnage intéressant. Et la dernière référence, c'est son ulti. Son ulti, c'est un gros Kamehameha.
Non, vraiment, alors là,
honnêtement,
contre,
c'est un Kamehameha.
Non, mais bon.
Elle sort en fait un gros laser depuis ses deux mains. Il y a vraiment la référence est là, quoi. Et ce laser fait en gros ses deux côtés de son gameplay hybride. Elle heal et elle fait des dégâts en même temps. Les ennemis prennent des dégâts et les alliés qui sont dans le champ du
perso top tier
dans la zone. Ça les heal. Et donc là, s'il y a un gros team fight, si vous avez le moyen de communiquer avec vos alliés et qu'il y a un gros team fight qui se prépare, vous dites à vos alliés, rentrez dans le tas, je suis derrière. Tout le monde se tape sur la gueule à un endroit, vous êtes derrière, vous lâchez l'ulti et vous healez vos copains et vous faites des dégâts aux autres. C'est absolument incroyable.
Dans deux semaines, elle est nerf.
Ouais, non, c'est ça. Non, l'ulti, c'est ça. Pas tant que ça. L'ulti, ok, il y a des fonctionnalités qui sont ouf, mais c'est pas complètement fumé. Le seul truc qui fait trop mal, c'est la
bouboule.
C'est pas la bouboule, c'est son sort. Elle a son sort de dégâts en fait de base, elle a une portée vraiment très grande, elle a une aide à la visée.
Ah ouais, non mais.
Et elle a pas à recharger et pas de munitions, donc du coup, ils vont, je pense, réduire un peu les dégâts.
Parce qu'elle va être trop agressive, tout le monde va jouer pour DPS et ça va être affreux.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça change complètement le gameplay des autres healers et c'est un personnage qui, c'est le premier cas depuis la sortie du jeu. Quand un nouveau personnage sort, généralement, il est pas du tout, comment dire, équilibré.
Ouais.
Et là, c'est le premier qui, à part cette capacité, il est vraiment équilibré, il s'insère tout de suite très bien dans la méta, donc bonne nouvelle.
Par contre, le design. On en parle un peu.
Alors il y a un très beau clin d'œil, vous savez, donc Overwatch, on en a parlé avant avec les lootbox. Il y a des skins, non du tout. Il y a deux skins légendaires. J'en ai acheté un direct. C'est des très beaux clins d'œil à David Bowie. Elle a un style, elle est très androgyne en fait. Et ils ont fait deux skins un peu avec une étoile sur le visage et David Bowie. Vraiment, il y a sa gueule dans le jeu. Et c'est assez fantastique.
Moi,
j'ai
hâte de voir. Je le sens venir, enfin je veux pas dire je le sens venir. Parce
un Nishan qui rentre dans la partie.
Non, ça peut arriver de temps en temps. Bref. Non, mais tu sais, en ce moment, enfin, je le vois surtout dans la partie versus fighting. Mm-hmm. Aujourd'hui, dans n'importe quel jeu de combat, ils invitent un autre perso d'un autre jeu qui n'a rien à voir et on te le fout dedans. Overwatch,
à
mon avis.
Alors, sur le Calibur, vous avez ça.
Ouais, mais là,
il y a eu deux choses, deux news en une semaine.
Ils ont entamé ça, en fait.
Qui ont été monumentales. Mais là, je ne comprends plus.
Ils ont entamé. Alors, je pense que sur le personnage, ça ne se fera pas. Parce qu'ils essayent de faire leur propre lore, leur propre histoire à chaque personnage qui s'insère. Après, on verra.
Demain, il y a Ezio Auditore.
Non, peut-être d'autres persos de jeux Blizzard. Donc,
tu vas voir
Warcraft, Diablo, tout ça.
S'ils font croiser leurs univers, il y a moyen. Mais bon, après, c'est pas du tout leur ligne directrice pour l'instant.
Par contre, quand
Moira a été annoncé, ils ont fait une autre annonce, donc c'était à la BlizzCon, donc le moment où tout le monde écoute Overwatch, donc ça a été un gros coup de leur part. Ils ont annoncé, elle est encore en test pour l'instant, mais une nouvelle carte pour se battre dessus, qui est Blizzard World. Et en gros, l'idée, c'est un parc d'attractions dans lequel vous combattez et chaque stand c'est l'univers d'un jeu. Donc vous allez avoir un stand StarCraft 2, un stand Warcraft, un stand Hearthstone. Du coup c'est clin d'œil, c'est très fan service, mais ça marche plutôt bien. Il paraît que la map est très très fun et intéressante à jouer. Mais bon, ils se lancent un peu là-dedans, mais après je pense pas qu'ils vont se lancer dans il y a un Sangoku qui va venir dans la partie.
J'espère
en tant
que
héros. C'est pas du tout Overwatch pour l'instant. C'est pas. Ils ont essayé de creuser sur le côté. On a un vrai scénar derrière et on veut avoir des héros qui ont une identité et pas chercher d'autres personnes.
À la limite, c'est sur les skins où des fois ils font des grosses références.
Oui, voilà.
Mais ça va.
Il y en a eu plusieurs déjà. Ils font plaisir. Mais bon, sur les persos, voilà.
Tu en as pas parlé d'ailleurs, Théo, de ces deux news un peu dégueulasses là.
Elles sont sur le site.
Hein?
Elles sont sur le site.
Vas-y, sont déjà.
Sur quoi donc?
Sur Injustice 2 et Tekken 7.
Injustice, ils ont rajouté
les Tortues Ninja. Les
Tortues Ninja.
Ah oui,
ils ont déjà rajouté Hellboy qui n'est pas d'univers d'ici.
Ouais,
mais...
déjà ça pour commencer, c'est déjà compliqué.
Ouais, mais il y a
les Tortues Ninja.
Mais Tortues Ninja, il y a un moment faut arrêter les gars, enfin.
Ouais. Ah mais par contre ça a généré une hype pas possible.
C'est hein. Un tag, tu
mais parce que t'as pas le personnage en jeu.
Mais par contre, je sais pas comment ça joue, on sait pas. C'était juste un trailer pour annoncer dans le Fight Pack 3, il y aura donc dans le 3e DLC, il y aura en plus d'autres combattants les Tortues Ninja.
Et l'autre truc c'est que Tekken ils se sont rendus compte qu'ils savaient pas des persos donc ils mettraient ou dedans, c'est ça un truc comme ça.
Non, ils ont mis Noctis.
Alors attention.
Ah oui, c'est vrai, oui, mais bien sûr, je l'ai vu. Je l'ai vu.
Ah non, ouais. Alors à un moment, je bien le sens pas, tu vois. Tekken, ok, je suis fan, machin, tout ce que tu veux. Quand ils ont déjà annoncé Geese Award, je les ai insultés. J'ai dit, il y a un moment, faut arrêter. Comme pardon, mon téléphone sonne à ce moment-là. Hop. Je les ai insultés. J'ai fait, faut arrêter de prendre des personnages SNK. Laissez-nous SNK. Tranquille de leur côté. Bref, ils ont rajouté maintenant
Noctis.
Noctis, on a repris un personnage de Square Enix de Final Fantasy
Mais toi, tu sais qu'il y avait un vote, hein. Et c'était même pas lui le premier. Normalement, c'était le personnage principal des Yakuza qui est arrivé largement en tête. Et en fait, ils ont pris Noctis parce que voilà. En fait, ils avaient déjà pris.
Tu veux prendre un personnage charismatique comme le mec justement de Yakuza.
Oui.
Finalement, t'as Kazuya Mishima qui ressemble presque un peu comme au personnage. Tu peux pas te permettre d'avoir la même chose. J'ai vu le gameplay du perso. Mais mon dieu, mais c'est sous le Calibur.
Oui, par contre,
Tekken, quoi.
Ah, mais par contre, oui, c'est ça qui a l'air. C'est pour ça que moi, ça m'a un petit peu hypé, parce que justement, ça ressemble plus à Soul Calibur, qui me manque, parce que.
Ouais, bah.
Mais ça...
Là, franchement, je pense qu'on a atteint une limite sur ce jeu qui est extraordinaire.
Ah, mais c'est Bandai Namco.
On prend n'importe. Moi, je. Ouais, mais bien sûr, mais c'est possible.
Bah, ça serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant, sachant que c'est Bandai Namco qui a fait le dernier Smash Bros. Donc, qu'ils mettent un personnage Nintendo, ça serait pas étonnant.
Non, moi, j'attends un lapin crétin dans le roster.
Un Tekken 7 Switch avec.
Le mec de One Piece ou même Dragon Ball. Tu peux.
Mais j'achète. Ils mettent Goku dans Tekken, j'achète.
Tu peux mettre son Goku, parce que finalement, s'il fait pas de caméra, il peut.
Bah,
tu vois.
Bah, si, il y a Akuma.
Il y a Akuma.
Et il fait aussi des Shuriken.
Ouais, exactement. Et il fait des Hadoken dans tous les sens. Donc, finalement, tu peux mettre
un petit Goku, et puis voilà.
Non mais ça devient vraiment n'importe quoi.
Ah c'est la mode du crossover pour essayer de.
Non mais c'est pas de là, c'est pire que du... c'est même pas du crossover. Si tu fous ta gueule. Oups pardon, c'était la minute.
La minute rage.
Ouais, Pierre, tu avais des news peut-être.
Oui, déjà vite fait parler de Dragon Ball FighterZ puisqu'on est dans les jeux de combat parce qu'ils ont quand même annoncé Gohan adulte et Petit Bou pour FighterZ.
En DLC.
Non, dans le jeu de base. Mais en fait, le truc, c'est que.
Il est pas encore sorti, tu sais, déjà des DLC.
Mais non, ils ont pas encore annoncé ce qu'il y aurait dans les DLC.
Season Pass 1.
Tais-toi, arrête, je sais que j'ai toussé le front, arrête. Donc non, parce que justement, dans un live, il y a pas très longtemps, ils avaient justement mis entre parenthèses à côté de Gohan et de Bou, justement, Gohan ado et Bou gros. Et du coup, on savait qu'ils allaient annoncer. Et donc, ils ont annoncé Majin Bou, donc le petit Bou vénère. Et Gohan adulte, du coup, sérieusement, sûrement, côté un petit peu Gohan mystique tout ça et non ça c'est cool quoi enfin c'est
ils ont prévu Pikachu en DLC ou
hey, alors, tu vas arrêter de parler par contre Dragon Ball FighterZ on peut critiquer sur
non mais
DLC.
Je rigole mais il a l'air excellent ce jeu
oui
il a l'air
calme
il l'est je vous confirme
tu l'as testé ouais
mais oui il l'a testé non mais
d'ailleurs je crois qu'il y a la prochaine bêta qui arrive
mais c'est en décembre oui et elle sort pas sur PC merci Bandai Namco de nous la mettre à l'envers quand même
mais il sortira sur PC le jeu
oui il sort le même jour sur PC oui, la bêta est pas sur PC, c'est pour ça qu'il faudra que j'aille squatter chez quelqu'un pour tester la bêta.
Et jouer à Machinarium et arrêter de râler là.
Je dois te poser des jours de congé quand la bêta.
C'est vrai, il a raison, jouer à Machinarium, mais par contre.
Grave.
Non, c'est un peu naze.
C'est pas naze, c'est fantastique.
Ah non, Machinarium, c'est super. Bon, ça a rien à faire de la Machinarium.
Ah oui, tout à fait.
Bref.
Par contre, j'espère qu'il y aura effectivement pas un crossover dessus. Parce que là,
Non, là ils peuvent pas. Non, la bande Namco, ça, ils veulent juste vendre du Dragon Ball et ils vendent du Dragon Ball et ça va.
Mais Tekken, ils ont dit pareil.
Mais c'est Tekken.
Bah non, je suis désolé. Bon, c'est vrai que Tekken depuis très longtemps, on voit déjà des personnages un peu loufoques apparaître.
Bah par exemple, Tekken Tag Tournament 2 sur Wii U avait des costumes Mario et Luigi.
Oui.
Donc non, ils étaient déjà et Bowser aussi. Donc ils étaient déjà un petit peu dans le on s'éclate, on fait un peu ce qu'on veut avec. Bon maintenant, ça va être le quart d'heure PUBG. Ah, ils avaient des questions ?
Non, c'était encore pour troll ou rappeler des souvenirs. À l'époque, il y avait un Soul Calibur où il y avait Yoshimitsu. Hein, de...
Bah oui, il y avait aussi Zelda et Spoon.
Yoshimitsu, il est trop classe.
Ah, attends, oui, il y avait...
Yoshimitsu, il a... Dans Tekken ?
Oui, bah, enfin le grand-père.
Non, c'était dans Soul Calibur. Il y
non,
avait
c'est pas Yoshimitsu, c'est le grand-père. C'est le grand-père de Jin et Hachi, voilà.
C'est pas Yoshimitsu ?
Non, Yoshimitsu, c'est un autre perso. Et de Tekken d'ailleurs, je crois.
C'est sûr que dans Soul Calibur, j'ai compris
dans quel jeu il était.
Ça sur une des versions, parce que t'avais une version où il y avait Link, c'était la GameCube, la version Xbox c'était Dark Vador.
Non, c'était Spawn. Dark Vador, c'est dans Soul Calibur 4 sur PS3. Quand même.
Soul Calibur 2, c'était effectivement
Yachi. Yachima, parce que je crois que
c'était sur PS2 et Spawn,
ouais,
c'était, sur 3, c'était sur Xbox.
Ouais, c'est ça.
Et le meilleur gameplay, c'était celui de Link.
Oui,
c'était sur GameCube, effectivement. Oui. Et c'était sur Soul Calibur 3.
Non, le 2.
Le 3 était exclu PS2 et c'est le meilleur de la série, par contre.
Ouais.
Là, j'aime beaucoup le 3 aussi. Mais je connais pas assez la série pour dire si c'est.
Non, Yoshimitsu.
Continuité.
Ok. Donc, ça va être le quart d'heure PUBG. Non, j'essaie de faire assez vite. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont lancé récemment la mise à jour 1.1 sur les serveurs test. Donc, la mise à jour 1.1, c'est celle qui va servir de release quand elle sera dévoilée à tout le monde. Et dedans, il y a enfin le nouveau système de déplacement où on va pouvoir, en fait, enjamber à peu près tout ce qui existe dans le jeu et pouvoir s'accrocher au muret pour pouvoir passer à travers et même aux fenêtres. Et on a vu, donc, un peu des retours sur les serveurs test et des gifs, etc. Et ça change juste tout, c'est tellement fluide, c'est tellement smooth, on peut sauter par les fenêtres, genre truc, enfin, ça change à peu près tout le gameplay du jeu, et non, mais alors, quand j'ai vu à peu près à quoi ça ressemblait, ça m'a juste hypé de fou, j'ai 150 heures, j'ai repassé 150, putain, arrêtez, quoi. Oui, t'avais...
Non, moi, enfin, si, j'ai une interrogation, c'est... En fait, il y a qu'un seul truc, moi, que j'attends de PUBG avant de pouvoir l'acheter, ouais. Etc., et pleinement dire que c'est le meilleur jeu de la planète. Ou pas, mais pas loin. Oui. Est-ce qu'il y aura d'autres cartes ?
Oui, il y en a deux autres qui sont prévues, dont une où ils ont montré des images cette semaine. C'est une carte dans le désert. Et du coup, ils ont vraiment changé. Alors, il y a certains bâtiments qui ressemblent avec juste un peu des skins différents, mais aussi des nouveaux bâtiments. Et surtout, là, on a un peu comme dans les jeux à la Arma ou ce genre de truc. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est une map un peu type Europe de l'Est avec quelques grandes, entre guillemets, grandes villes. Mais là, par contre, il y aura beaucoup de désert sur celle-là avec quelques petits villages et un gros centre urbain. Avec justement des grands bâtiments, etc., qui va changer pas mal le gameplay, ça sera plus du close combat. Et donc, non, ça. Et il y aura une, normalement, qui devrait se passer dans une jungle. Pour l'instant, on n'a aucune image, elle est encore en développement, mais normalement, pour la sortie du jeu, on devrait avoir la map dans le désert.
Très bien.
Donc, ce nouveau système de déplacement qui va changer totalement la méta du jeu, et on va plus pouvoir se cacher derrière un muret et se dire, il n'y a rien qui arrive, non, il faudra faire gaffe à partout, et ça va être ultra flippant, mais c'est ça qui est génial. Ils ont aussi changé la balistique pour qu'elle soit un peu plus crédible, parce que. Aujourd'hui, on tire un peu droit devant soi, ça partait toujours un peu, sauf si t'es à 500 mètres. Là, ça va, ils ont un peu retravaillé ça pour que ça soit un peu mieux foutu. La physique des véhicules est enfin changée, la moto va arrêter de glisser comme sur une savonnette. Surtout quand il y a une sidecar, ça c'était juste affreux. C'est limite, on ne prenait pas, on préférait courir et limite mourir que de prendre une moto avec une sidecar. Non, vraiment, c'était infect.
Ah, c'est fun, non ?
Non, c'est même pas fun. Une moto tout seul, oui, c'est fun.
T'as froid dedans et que tu te plantes, c'est rigolo quand même.
Ouais, bah tu meurs et t'es triste et tu.
Ah non, tu rigoles ensuite.
Non, tu insultes d'abord le chauffeur et ensuite tu rigoles. Mais d'abord, tu insultes le chauffeur parce que putain, pourquoi t'as sauté ? Et d'ailleurs, ils ont changé les sons un peu des véhicules, surtout du buggy qui était assez affreux. C'était un bruit ultra strident que personne ne supportait. Il y a plein de gens qui. Couper les sons du jeu quand ils utilisent Buggy parce qu'ils pouvaient juste pas le supporter. Ils ont un petit peu changé la map en rajoutant quelques morceaux de forêt. Et ils ont aussi changé un truc qui est plutôt intéressant sur les lunettes pour les fusils. Donc x8 et x15, donc c'est des lunettes très précises. Et du coup, c'était pas tout le temps utilisable. Là maintenant, on va pouvoir un peu dézoomer dans la lunette, ce qui est normalement faisable dans les simulations. Et donc, pour pouvoir voir un peu plus large, même quand on utilise une lunette x8, ce qui les rend totalement pété, mais plus intéressante à utiliser. Et aussi, ils ont un peu amélioré l'optimisation du titre. Donc maintenant, le jeu a moins de drops de FPS et il tourne un petit peu mieux. Et surtout, ils ont aussi amélioré les casques. C'est-à-dire que maintenant, on est protégé dans le cou et un peu dans la nuque, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est un peu plus intéressant. Donc non, une grosse mise à jour. Et on a vu aussi dans les fichiers du jeu, il y en a qui ont déjà fait un peu de data mining. Ils ont trouvé un jet ski, donc qu'on va pouvoir utiliser un peu plus tard. Une nouvelle arme, une espèce de gros fusil mitrailleur, qu'on devrait sûrement trouver dans des caisses qui tombent en pleine partie. Et la map du désert. En fait, on peut pas encore y jouer, mais on a la carte qu'on verra quand on appuie sur la touche map. Et donc, on peut déjà voir à peu près à quoi elle ressemble. Et je suis sûr des mecs qui mettent déjà au point des tactiques pour savoir ce qui va tomber pour aller là ou là. Donc, non, c'est vachement intéressant. La mise à jour est pas mal. Elle devrait sortir au courant du mois, au pire avant fin décembre. Et ils ont aussi annoncé qu'ils avaient banni 700 000 joueurs sur les.
700 000.
Ouais, sur 20 millions de ventes.
Deux fois la cuisse, quoi.
Ouais, c'est
deux fois l'Euro Métropole, pardon. Enfin, non, c'est pas vrai.
Strasbourg ne joue plus.
Deux fois Strasbourg intramuros.
Ouais, c'est ça. Donc, on a 700 000 joueurs. Donc ouais, non, c'est pas mal. Après, il y a pas mal de cheaters. Après, sur toutes les heures de jeu que j'ai eu, j'ai croisé, je pense, deux cheaters, dont un qui était totalement pété, mais lui, il s'est fait banni, enfin, c'est obligé. Maintenant, il y a un système pour report, justement, quand on pense que c'est quelque chose de frauduleux. Quand le mec traverse les murs, il met des one-shots à tout ce qui bouge et qu'il en a tué 10 et il en retue 10 après, tu es ok. D'accord, monsieur, bien sûr. Mais voilà, je ne comprends même pas l'intérêt de jouer comme ça. Donc voilà, PUBG.
Ranking, c'est tout, c'est que du ranking.
Non, il y a même pas de ranking en plus sur PUBG. Enfin, c'est juste pour le fun. Enfin, c'est il y a une espèce de ranking, il y avait une saison 1 a priori, mais personne n'avait rien à faire. Enfin, je veux dire, on regarde pas notre score, on regarde pas notre kikiomètre sur PUBG, on joue juste pour tuer des gens. Enfin, je veux dire, faut... Non mais vraiment, on lance PUBG,
c'est ça qui les gens hein, les... c'est ça qu'il faut retenir dans le jeu vidéo. On joue pour tuer
bah, à
des gens.
Jeux, à PUBG, oui, j'ai joué juste pour tuer des gens, avoir un peu ce frisson.
Gardez bien
de stress.
Ça en tête, hein. C'est ça le jeu vidéo. Hein.
Ah, chut. En plus, c'est très bien que c'est pas mon cas et que j'aime plein d'expériences à côté.
Le mec qui joue qu'à Mario, tu sais, en plus.
Non, en plus, enfin, Mario, je suis même pas plus grand fan, j'en ai joué qu'à un, donc faut arrêter, Nishan.
Dans Mario, tu tues des champignons, quoi, je veux dire.
Ouais, tu les manges et puis tu sautes sur des carapaces. Enfin, tu. Ah, les pauvres, quoi.
Alors j'ai lu un truc très intéressant sur Mario à ce propos-là, mais peut-être qu'on en parlera après.
Après, parce que j'ai encore une petite news qui me fait peur et en même temps je me dis que c'est des projects, alors je leur fais un peu confiance, même si j'ai quand même peur. Donc ces projects, c'est ceux qui ont fait donc les The Witcher et en ce moment ils ont travaillé sur Cyberpunk 2077, qui est le jeu que j'attends le plus depuis son annonce et que je n'arrête pas de regarder son trailer. Il faut que j'arrête ces maladies, je pense. Et Non, et le truc, donc ça va être un RPG, un monde ouvert dans un monde cyberpunk, donc tout ce qui est transhumanisme, robots, etc. Enfin, avec plein de thèmes vachement sombres, matures, intéressants et qui moi, me passionnent.
En somme, Deus Ex en bien, quoi.
Oups
Enfin, les autres, Deus Ex.
Oui, mais et c'est basé sur d'ailleurs la licence Cyberpunk, c'était un jeu de rôle papier. Et il y a le créateur du jeu de rôle qui d'ailleurs travaille avec CD Projekt pour le respect de l'univers, même si ça se passe 50 ans après le jeu de rôle papier, pour
rester
un petit peu cohérent. Mais le truc, c'est que donc on s'attendait à un jeu solo. Ils avaient dit qu'il y avait quelques fonctionnalités multi, mais on savait pas trop ce que ça allait être. Et aujourd'hui, il y a deux jours, ils ont fait un peu peur à tout le monde parce qu'ils ont annoncé que ça allait être un jeu service. En tout cas, il va y avoir une partie jeu service, c'est-à-dire avec du contenu qui arrive sur la durée. Enfin, régulièrement, donc un peu comme Destiny, un petit peu comme The Division ou genre de truc. Et c'est là on dit mais comment, enfin pourquoi. Et après c'est symptomatique du marché du jeu vidéo qui où il y a plein de jeux qui font ça. Du coup il va y avoir du loot, il va y avoir des mises à jour, il va y avoir aussi des microtransactions certainement. Il faudra voir s'il y en a. Après, en fait, le truc, c'est que je me dis, c'est des projects. Ils sont arrivés sur le monde ouvert, alors que c'était justement le truc où plus personne ne voulait de monde ouvert. Ils sont avec The Witcher 3, ils ont juste posé leurs couilles, faut le dire, sur le front de tout le monde. Ils ont dit, c'est nous qui avons fait le meilleur open world.
Donc, maintenant, des gens disent que c'est Zelda Switch le meilleur.
Oui, mais après,
open
c'est
world.
Pas la même chose. Il y en a un qui est très narratif, l'autre qui est très sandbox et juste on met du gameplay et fait amusant.
Au final, le monde ouvert, visiblement, c'est ce que les gens veulent, parce que la fermeture de Visceral.
Voilà. Enfin, même si a priori c'est pas que ça. D'après même des gens de Visceral, c'est pas que ça qui a fait fermer le studio et fait repousser le jeu.
Le retour des joueurs, apparemment, c'est on donne plus de durée de vie, tout ça. C'est ça. On met pas de linéaire.
Ouais, mais bon. Je vais pas dire ce
et
que
nous,
je pense.
Et nous, quand est-ce qu'on teste et quand est-ce qu'on nous demande notre avis?
Je vais pas dire ce que je pense, mais voilà, enfin, des fois c'est bien un jeu juste linéaire qui a une fin.
Ouais, voilà, qui a une fin, qui a une histoire.
Après, faire des DLC comme The Witcher 3, c'est cool, mais justement, qui ont aussi une fin, mais qui se passe dans un cadre précis, défini, c'est vachement cool quand c'est bien écrit. Mais le truc, c'est que est-ce qu'ils vont réussir à faire du contenu très écrit aussi, parce que c'est la marque de fabrique de CD Projekt?
Oui.
Un des trucs très écrits sur un jeu service. Et je me dis, c'est CD Projekt, ils peuvent le faire.
Est-ce qu'ils disent que c'est que. Après, ils ont pas tout le jeu
non.
serait axé là-dessus?
Non, justement, je pense qu'il y aura une histoire qui verra un début, une fin, et.
En fait.
Et il y aura peut-être du contenu à côté.
Ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Enfin, même en dehors du service. Voilà, possibilité de jouer même hors ligne dans un mode solo qui est écrit en long, en large et en travers, comme The Witcher. Et après, si on veut faire du multi, là, ça peut devenir
un jeu
service.
Avec justement du contenu annexe, peut-être des entre guillemets raids ou des contenus annexes, enfin, je crois qu'ils sont peut-être un peu moins écrits, mais qui permettent de rester sur le jeu, qui donnent envie aux gens, parce que justement, l'intérêt d'un jeu service, c'est aussi de faire plein d'argent tout le temps. Et donc, ouais, ça fait peur, et en même temps, ces projects, ils peuvent y arriver, ils peuvent arriver à rendre un jeu service intéressant, enfin très intéressant, donc à bouger un petit peu les codes du genre. Donc je leur fais confiance, on n'a toujours aucune date, mais franchement j'ai quand même les fesses qui font bravo, enfin faut le dire, je suis pas rassuré. Mais voilà, j'ai fait le tour de mes news. Théo ?
Oui, Bonsoir.
Alors,
alors moi, je vais vous parler pas mal de ce qui se passe dans l'univers du jeu indépendant, comme souvent. Mais je vais vous parler d'événements qui ont lieu en ce moment ou qui ont eu lieu. Donc je vais commencer en fait par nos voisins lorrains, en particulier, c'est à Metz que ça se passe en fait. Hein. C'est à TCRM Blida, je pense qu'on en a déjà parlé pendant cette émission.
Cool aussi, d'ailleurs.
C'est oui, exact. Ils ont fait une vidéo de présentation de leur tiers-lieu, comme ils disent. En gros, c'est l'équivalent du Shadok à Metz, sauf que eux, ils ont 12 000 mètres carrés. Voilà. C'est un ancien dépôt de bus en fait de l'agglomération de Metz qu'ils ont transformé en une espèce de secteur d'activité où il y a des locaux de développeurs de jeux vidéo, il y a une salle de concert plus grande que la laiterie, il y a un énorme atelier pour les artistes, sculpteurs, etc. Il y a un potager, plein de choses éco-responsables, etc. Plein de petits projets dans le numérique et on va dire dans l'air du temps qui se déroule là-bas. Et ce soir, en ce moment même, il y a ce qu'ils appellent les Indie Games Club, qu'ils organisent, je crois, de manière trimestrielle, qui est l'association Coin, ou Coin, comme vous voulez, qui organise ça avec la complicité de East Games, donc le cluster qui gère beaucoup de développeurs de jeux vidéo de l'Est de la France. Et donc, en fait, ils présentent au public et aux curieux des jeux indépendants, en fait, pendant cette soirée. Il y a des jeux qui reviennent régulièrement, ils font des tournois sur Towerfall, sur Nidhogg, ce qui est vraiment une bonne idée parce que ça permet aux gens de découvrir même à travers le jeu un peu compétitif le jeu indé, et ça c'est toujours une bonne chose. Et présenter aussi des jeux un petit peu qu'ils choisissent de leur feu, etc. Et aussi présenter les jeux du Festival du Film Fantastique qui était en compétition. Là-bas il y a clairement deux des trois lauréats de l'Indie Game Contest du Festival du Film Fantastique de cette année, à savoir celui qui a obtenu l'Octopix, qui s'appelle Do Not Feed the Monkeys, qui est un jeu de voyeurisme un petit peu, on espionne des gens à travers une caméra et on choisit ou non de livrer des informations sur eux contre de l'argent, qui est un jeu espagnol. C'est tout à fait possible. Là, il est alors il
joue dans la vraie vie en fait.
La page Steam, la page Steam. Mais justement, c'est un jeu très intéressant parce que ça permet de s'intéresser à la manière dont nous on fait ça. Pas forcément voir à travers des caméras, mais dont on stocke les gens parce que tout le monde stocke les gens, ne mentez pas. Et donc, c'est un jeu espagnol. Donc qui a gagné donc l'Octopix au Festival du Film Fantastique et qui est présenté là-bas ce soir.
L'Octopix.
L'Octopix, c'est le grand prix de l'Indie Game Contest du Festival du Film Fantastique.
D'accord.
Celui qui a remporté le grand prix cette année donc. Et il y a aussi présenté ce soir à Blida le jeu qui a gagné le prix Arte Créative au Festival du Film Fantastique également, qui s'appelle Oko, qui est un jeu français qui a été développé par notamment une personne qui travaille chez Game Bakers. Et qui est un jeu qui a été développé donc dans la région entre Toulouse et Montpellier, parce que c'est pas la même région, donc faut faire gaffe, on va les vexer. Et en fait, c'est un jeu qui a été développé pendant la dernière globale sur le thème Wave. Donc en fait, qu'est-ce que c'est Oko, c'est un jeu très calme, c'est une sorte de jeu de puzzle réflexion, un jeu très arté finalement, parce que je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi.
C'est pour ça, ouais.
Où en fait, vous déclenchez des ondes et vous devez déplacer sur cette onde une espèce de petit module qui doit se déplacer d'onde en onde. Sans que les ondes ne disparaissent en fait, donc faut aller assez vite et il faut déplacer son petit module autour de l'onde, en générer d'autres pour créer des ponts, etc. C'est un jeu vraiment très sympa et donc voilà pour cet Indie Games Club. Il continue en fait Blida sur un week-end jeu vidéo parce que demain il y a un séminaire jeux vidéo avec deux tables rondes dont je vais vous donner les thèmes tout de suite parce que je les ai oubliés. En fait, c'est l'imaginaire et l'exploration dans un jeu vidéo. Donc il y aura une première table ronde avec les développeurs de Event Zero, qui est un jeu français qui fait beaucoup penser à l'univers de 2001, l'Odyssée de l'espace, pour ceux qui connaissent le
très grand film,
qui seront présents, un très grand film, oui, qui seront présents et qui parleront de l'exploration d'un univers en fait d'un jeu par le joueur en fait, et s'y glisser un petit peu clairement dans l'univers et dans l'imaginaire d'un développeur. CF The Witness pour ceux qui ont fait la fin secrète du jeu. Et après, en fait, on va, il y a une deuxième table ronde avec Elisabeth Mahler qui sera présente, qui était jury de l'Indie Game Contest du Festival du Film Fantastique et qui a créé notamment le jeu, enfin les deux jeux qui s'appellent Normal Lost Phone et Another Lost Phone, qui sont des jeux mobiles. Voilà.
Pas que mobile, mais enfin ils sont aussi sur
oui,
PC.
Oui, 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 ils sont aussi sur
mais
PC.
Mais c'est quand même plus intéressant sur mobile.
C'est plus intéressant sur mobile parce qu'en fait le concept du jeu c'est qu'on vous dit que vous avez trouvé un téléphone et il faut fouiller dedans pour savoir pourquoi la personne a balancé ce téléphone. En fait.
Ah, ça peut être cool ça.
C'est vraiment...
Moi j'y ai pas joué, ça peut être
vraiment très sympa.
C'est pas drôle.
C'est vraiment très très cool.
C'est vraiment très sympa. Donc t'accèdes au message, t'accèdes un peu à l'intimité de la personne et en fait il y a vraiment une histoire écrite derrière ça.
C'est intrusif quoi, qui doit.
Oui, non, mais c'est. Et tu te prends vachement au jeu.
Au-delà de ça, en plus, je voudrais quand même féliciter juste le sujet du jeu.
Qui oui,
est
oui.
Aussi dans l'air du
oui,
temps.
Oui, mais il faut pas le dire parce que c'est
ah
ultra
oui,
spoiler.
Ouais, 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 ouais.
Et c'est super intéressant
ouais.
Et on sent que c'est renseigné en fait.
Ouais, ouais,
et
complètement,
que
ouais.
C'est sans jugement,
ouais.
Super bien en fait. Et voilà, nickel.
Oui. Et donc, Elisabeth Mahler sera là demain et elle parlera en fait de l'autre pendant de l'imaginaire et de l'exploration qui est explorer un jeu pour revenir justement au réel. Donc, explorer un jeu, une fiction pour qu'on y retrouve une métaphore de ce qui existe dans la vraie vie et donc du réel. Voilà. Ça, c'est demain après-midi, donc à TCRM Blida à Metz. Et voilà, la plupart des gens qui seront là-bas sont très accessibles, etc. Donc vraiment, rendez-vous-y. Ça va être non seulement on va parler de sujets très intéressants, mais en plus c'est des gens particulièrement adorables qui vont vous en parler.
Alors si vous êtes chaud, on fait des covoiturages RBS, on met vos dons au 06.
Moi j'y vais en train. J'ai choisi d'y aller en train.
Tu y vas demain?
Ouais.
Ok.
Ouais.
Tu nous feras un petit article sur le site bien entendu.
Je ferai au moins un live report à la radio.
Très bien. Parfait.
Tout comme je vais faire un live report maintenant de l'Indiecade d'Europe.
Allez, c'est parti, le teaser.
C'était il y a très exactement 18 jours. C'était les 30 et 31 octobre au Centre National des Arts et Métiers de Paris, dans le 3e arrondissement. C'est la deuxième édition de l'Indiecade Europe, donc qui est le pendant européen de l'Indiecade qui existe à Los Angeles depuis à peu près une dizaine d'années. Si je me plante pas,
l'Indiecade,
qu'est-ce que c'est? C'est un lieu de rencontre avant tout et d'exposition, enfin d'exposition, on va dire de jeux en développement ou sortis, donc de jeux indépendants, Indiecade, vous l'aurez compris. Donc c'est des développeurs qui viennent pour présenter leurs jeux au public, à la presse, aux gens du milieu indépendant, etc. et aux curieux. Donc le lieu est vraiment magnifique, hein, le Centre National des Arts et des Métiers, c'est vraiment un super lieu pour présenter ça et pour vraiment rendre crédible le jeu vidéo, parce qu'il a besoin de crédibilité, même maintenant qu'il tend à être reconnu par les institutions, etc. Il a encore besoin qu'on l'expose dans des lieux comme ça, il en a vraiment besoin. Donc il y a, en fait, à l'Indiecade, il y a une salle... où il y a à peu près une quinzaine d'exposants qui sont là. Donc moi j'ai vu les développeurs de Stories Untold, dont je crois on a déjà parlé dans cette émission. Ce sont des développeurs écossais qui ont créé un jeu textuel assez sympa qui est très teinté des années 80, qui était là-bas, donc leur jeu est déjà sorti. Il y avait les gens de Sexy Brutal qui sont des Anglais. En fait, Sexy Brutal, c'est un jeu un petit peu à la Cluedo, où en fait vous êtes dans un espèce de manoir comme ça et vous devez en fait regarder à travers des trous de serrure, etc., vous balader de pièce en pièce et découvrir qui est le meurtrier à une espèce de soirée mondaine. C'est assez cartoonesque en fait.
Chandelier, c'est sûr.
C'est le colonel Moutard dans le Moutard. Mais non, mais c'est un jeu qui est vraiment très très sympa. Je l'ai pas encore acquis, mais il a l'air vraiment très très chouette. Il y avait les développeurs de Sunless Skies, qui est la suite de Sunless Sea, qui est un roguelike très teinté d'univers lovecraftien où vous êtes navigué d'île en île sur un bateau. C'est assez difficile. C'est un petit peu FTL en bateau en fait. Un peu Faster Than Light en bateau.
C'est assez sympa.
Bah, Sunless Skies, ça va être dans les airs. Voilà, concrètement, c'est un roguelike dans les airs comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait toujours Elisabeth Mahler qui présentait Another Lost Phone sur mobile.
Elle a tout fait, Elisabeth, en fait.
Ah, elle est partout, Elisabeth. Mais en même temps, elle a beaucoup de talent et elle présente ses jeux dans tous les lieux où elle le peut. Oui. Elle a bien raison. Et il y avait une autre partie, en fait, l'autre partie de la salle, on va dire, était dédiée à des jeux un petit peu plus conceptuels. Alors moi, j'ai joué à un jeu danois complètement barré où, en fait, vous incarnez D'ailleurs, c'était génial, les devs qui étaient tout le temps morts de rire. À la fin, tu testes leur jeu et tu leur dis que leur jeu il est bizarre et elles sont mortes de rire. Elles te regardent et elles explosent de rire pendant 30 secondes. C'était assez rigolo. Et en fait, le jeu, c'est un jeu qui. C'est une espèce d'univers un peu espionnage guerre froide. Et vous déplacez votre personnage sur un plateau de jeu. Et en fait, pour l'avancer, c'est un personnage en papier. Pour l'avancer, vous le froissez et vous le faites rouler sur le plateau de jeu.
Oh, c'est génial.
Un truc complètement barré. Le
concept
voilà, énorme. C'est à la limite du n'importe quoi, mais je sais pas, il y a vraiment un petit truc. Et puis il y avait d'autres jeux un peu what the fuck comme ça qui étaient assez sympas. Et il y avait les gagnants du festival de l'Indie Game Contest du Festival du Film Fantastique. Ils étaient là, Do Not Feed the Monkeys, Fixorama Studio, les développeurs. Il y avait un autre jeu en VR qui était aussi là au FEVS qui s'appelle A Guy in the Zero, qui est un jeu développé par des étudiants de l'Engmin, donc en partenariat avec le CNAM, parce que maintenant l'Engmin à Angoulême, l'école d'Angoulême s'appelle le CNAM Engmin, parce qu'il y a un partenariat.
Ah, ils sont avec le CNAM.
Ouais,
okay.
Voilà. Derrière, ils ont remporté un prix. Et voilà, donc ça c'est pour la première salle. Dans la deuxième salle, en fait, c'est une espèce d'entrée d'amphithéâtre dans laquelle il y avait beaucoup de keynotes et de conférences sur le développement. C'était vraiment très axé, ça, pour le coup, sur les techniques à acquérir pour les devs indés en herbe, comment gérer une communauté du Kickstarter jusqu'à l'accès anticipé, etc. Comment être bien gentil avec sa communauté, etc. C'était une conférence qui était intéressante. Une conférence sur l'Indiepocalypse. Donc, en gros, l'Indiepocalypse, qu'est-ce que c'est? C'est le phénomène qu'on par lequel on qualifie le fait qu'il y ait énormément de jeux indépendants.
Une
sur
explosion,
Steam.
C'est des
voilà,
années,
et que finalement il y a pas mal de jeux, voilà, qui se plantent parce qu'en fait il y a trop de grosses sorties indé le jour
le
même, et complètement noyé dans la masse, quoi. Donc il y avait une conférence sur ça.
On a avec des triple I maintenant. En fait.
Voilà, exactement.
Donc,
ouais.
Des triples indépendants.
Voilà.
Donc des gros indés, quoi. C'est
voilà.
Ça qui... Non mais ça qui est assez paradoxal.
Qui enterre dès la sortie les petits.
Ouais,
indés,
mais c'est ça,
je
mais...
pense à un triple I qui, je sais pas s'il verra le jour. Donc vous connaissez mieux que moi, je pense. C'est le créateur des Castlevania qui a fait une opération Kickstarter
ouais,
pour sortir
là,
son propre jeu qui est très
ouais. Moi je suis assez sceptique sur ce truc là.
Ça ressemble plus à un Mighty No. 9 en termes de retour qu'à un très bon Castlevania.
Mais voilà, c'est ça le
voilà.
problème.
Mighty No. 9, qu'est-ce que c'était? C'était un faux Megaman qui était Kickstarter et tout, mais qui était vraiment pas bon.
Ah oui, mais c'est à peu près la même somme, etc. Sauf que ça s'est autant planté et les retours.
Mais
qu'on
il
a,
en est où ce projet?
Il existe toujours, il devrait sortir en 2018.
D'accord. Parce que le problème de ces projets, c'est pas tellement le fond, la qualité du jeu. Le problème, c'est que c'est. Non, c'est pas ça en fait. Moi, enfin, je l'aborde d'un autre point de vue. C'est que c'est une figure. On peut en parler comme ça. C'est une figure du jeu vidéo qui se met sur la scène indépendante et qui lâche un gros hit.
Mais
il y
en a pas mal qui font ça.
Hein. Mais malheureusement, on reparle encore une énième fois de Shenmue 3. Je suis désolé.
Oui, mais en dehors de ça, il y a des sorties moins cinglantes que ça. Il y a des types qui sont complètement saoulés par leur ancien boulot Ubisoft et qui sortent des jeux. Bah, par exemple, Papers, Please, Lucas Pope, c'était un mec de Naughty Dog, non, si j'ai pas de conneries.
Oui, mais
après, il n'était pas famous, c'était pas un team chauffeur.
Voilà, il n'y avait pas cette communication derrière.
C'est vrai.
Si demain Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, Zelda Company, si lui demain il dit fuck Nintendo et qu'il sort son jeu indé sur Kickstarter,
oui,
je suis désolé
sûr.
Pour tout le respect que j'ai pour cet homme fantastique, c'est du foutage de gueule. C'est
il
compliqué pour tous les autres.
C'est vrai,
qui
c'est vrai que c'est. Bah, Shenmue 3, en vrai, Shenmue 3, moi j'ai trouvé ça assez dégueulasse.
Oui, la façon
dont ça
s'est fait.
Parce que c'était. Et les gens, ils ont souvent. Enfin, sur le moment, ils y ont vu que du feu, hein, y compris la presse.
C'est,
hein. C'est en gros, les gars, Shenmue 3, c'est bon, ça vient, ça arrive. Regardez, il y a un trailer. Par contre,
non.
C'est vous qui allez le payer.
C'est ça.
Et ça, c'est quand même pas terrible.
Il y a pire, il y a pire.
Attention, moi, j'étais dès le départ, sur la ligne de départ sur Shenmue 3, ça s'est pas forcément passé comme ça.
Ça s'est passé
comment ? Ça s'est passé. Les gars, ça fait très longtemps, plus de 10 ans qu'on attend la fin, enfin, un énième épisode non sorti sur Dreamcast, parce que la console est morte avant la réalisation du projet. On voulait tous avoir un énième épisode pour clôturer la saga Shenmue. Ils se sont dit, aujourd'hui, on a remonté un pseudo studio de développement avec les anciens bonhommes de chez Sega qui ont taffé sur le jeu. Par contre, on a zéro budget. On veut savoir si la communauté est prête à suivre sur ce projet. Ça s'est passé comme ça, je jure, j'étais vraiment sous le
choc.
Mais tu
c'est
fais pas ça à l'E3,
bah ouais, mais attends,
quoi. Hein, tu sais que Sony a l'E3, quoi.
Ah ouais, mais bon, après,
dire,
comment
est-ce
tu
que les gars, vous seriez chaud, peut-être?
Bah ouais, mais comment tu veux
mais
faire?
Les gens, ils vont pas dire non.
Mais par exemple,
la preuve, ça a été le plus gros Kickstarter qu'il y a eu
de tous les temps.
De tous les temps, ouais.
Avant qu'il y en ait d'autres qui le dépassent.
Oui. Bah d'ailleurs, je crois que celui sur Castlevania l'avait dépassé, il était à 5 millions, Ouais, il est monté. Après, c'était le plus rapide sur 24 heures.
Ouais, parce que je pense
que après, mais après ça s'est très vite tassé parce que les gens se sont dit non mais là faut arrêter de déconner.
C'était 180 000 dollars qu'il fallait récolter en
c'était 200 000, 500 000 dollars.
Non, c'est 180. Non, pour lancer le projet, ils ont fait 360 le lendemain.
Ouais, non, 24 heures, ils avaient le million. Ouais.
Ils avaient fait le double et après, je sais plus où ça s'est arrêté, mais c'est parti en millions.
Mais c'est parti à 2 millions, un truc. C'est... Ouais. Mais en soi, c'est pas énorme. Mais après, le
truc, c'est AAA, tu veux dire.
Oui.
Mais parce que par rapport au projet indé, moi, je suis dans ma cave en train de tenter des trucs, quoi.
Oui, c'est ça. Non, mais par rapport à des AAA, parce qu'il a, il a l'ambition d'être un AAA, entre guillemets. Mais le truc, c'est que par exemple, pour le jeu, là, du mec qui est derrière Castlevania, il l'a aussi dit, lui, là il avait récupéré quasiment 5 millions avec Kickstarter, il a dit mais ça suffit pas à faire le jeu, ça c'est juste pour montrer à des investisseurs, regardez on a déjà récupéré 5 millions, il y a des gens qui veulent acheter un jeu.
Comme si Kickstarter est devenu une rampe de lancement
pour ce genre de projet, pour les jeux, ce genre de truc ultra ambitieux entre guillemets pour l'indé.
Tu peux le dire.
Et c'est ambigu et en plus au final c'est même pas des jeux qui intéressent vraiment les gens parce que le Castlevania là il... Les retours sont assez mitigés. Shenmue, le trailer, tout le monde s'est foutu de la gueule les trucs parce que putain, mais c'est quoi ces animations de fusée spatiale quoi. Même Mass Effect Andromeda fait mieux. Au bout d'un moment, faut arrêter. Et
même Elle est noire fait mieux. Pardon,
et Elle est noire.
C'est juste pour dire que j'aime pas Elle est noire.
C'est ça parce que t'as pas de goût.
Il est sorti sur Switch d'ailleurs.
Oui.
Bah tu vois, cette semaine. Raison de plus.
Et sur PS4 et
14 novembre Switch.
Oui. Mais donc non, en plus, c'est pour ce genre de projet, c'est même pas si intéressant. Oui, oui. En plus, oui, t'en avais déjà parlé la semaine dernière. Donc oui, on va te laisser finir.
Oui, merci. Et donc voilà, il y avait donc une keynote sur l'Indiepocalypse et j'en ai vu une troisième avec Sébastien qui est l'un des devs de Motion Twin de Dead Cells qui est toujours en accès anticipé.
Génial.
Mais qui est un Metroidvania à la française bordelais. Et qui s'annonce absolument.
Qui a une très grosse mise à jour mardi.
Il n'y a pas autre chose à dire.
Ah oui, d'accord, en plus mardi.
La brutale update.
Qui a mis des nouvelles zones, des nouvelles armes et des nouveaux ennemis, et puis un rééquilibrage de tout ça. Et puis tout
Non, mais c'est.
Dead Cells, ça déboîte, je vous
dis. Ce jeu est orfèvres, franchement. Oui, c'est des orfèvres. C'est vraiment, en plus, hyper sympa. Moi, j'ai rencontré Sébastien de l'équipe, et c'est lui qui a donné une conférence, justement, sur les boucles de gameplay.
Oh,
donc bon vous qui êtes des apprentis dev,
on retrouve ça sur le net ou...
Alors ça c'est une très bonne question. Il est possible que non, mais tu peux demander aux organisateurs de Indiecade Europe, je te donnerai leur contact pour pouvoir éventuellement retrouver ça. C'était assez court mais c'était intéressant. En gros, qu'est-ce que c'est une boucle de gameplay si vous ne savez pas? C'est on va prendre l'exemple de Diablo. Une boucle de gameplay c'est: on tue des méchants, ils nous rendent plus forts, pour tuer des méchants encore plus forts, qui nous rendent encore plus forts, pour tuer des méchants encore plus forts. Voilà, c'est ça une boucle de gameplay.
Et on réitérer un process au sein du gameplay.
Et c'est la base.
Pour avoir une expérience et une évolution du jeu.
Et pour continuer à jouer. Voilà, ça se voit beaucoup dans le RPG, mais bon, par exemple.
Dans les hack and slash ou genre de truc. Enfin, voilà,
par exemple, dans Another Lost Road, la boucle de gameplay, c'est scroller vers le bas. Quoi.
Pour la micro-parenthèse, c'est très intéressant de se renseigner au niveau de la conception de game design, parce que vous avez une meilleure lecture des jeux qui sortent. Parce que quand on n'a pas de connaissances sur le jeu vidéo, on ne se base que, malheureusement et fort heureusement, enfin grâce à eux aussi, hein, et grâce à nous, on peut le dire aux médias en fait. Les médias qui vont vous dire le jeu est bien parce que ça, et le jeu est pas bien parce que ça.
C'est assez récent moi je trouve. Hein.
Oui.
On est d'accord. C'est assez récent. Mais...
Ça,
non, 5,
6, 7 ans.
On sait, ouais. Mais se renseigner et avoir plus de connaissances au niveau du game design, en expérience personnelle, ça procure une expérience de jeu qui est... Au-dessus encore, parce que c'est très intéressant, on comprend ce qui se passe derrière.
Moi je suis d'accord avec toi, mais tout détricoter c'est pas forcément aussi génial ici.
Après on perd de la saveur.
Quand tu vois toutes les arcanes, tu peux t'emmerder dans un jeu qui est bien, je pense, honnêtement. Et t'es pas forcément pris juste par un tout, quoi.
C'est
un tout dans le jeu et tu vois toutes les features.
Enfin, là, garder ces trucs de déconnecter, de partir. Et...
En fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui font que les jeux sont excellents. C'est quand tu t'as même pas le temps et même pas l'envie de t'intéresser à tous ces trucs.
C'est pour ça que je dis que c'est intéressant d'aller voir ce genre de conférences.
Oui.
Après, oui, c'est clair que faire des études. Non, après, moi, j'ai jamais réussi. J'ai fait des études dans le jeu vidéo. J'ai jamais réussi à non, mais vraiment, j'ai jamais réussi à analyser un jeu. Et à reconnaître toutes les ficelles du jeu.
Oui.
Je sais pas.
Ça dépend des jeux. Hein.
En termes techniques, on met devant un papier, on commence à parler de telle ou telle chose de game design, d'accord. Et dès que j'arrive devant le jeu, je suis un gamin à Noël, quoi.
J'arrive pas
à suranalyser.
C'est que t'es très bon client des jeux.
Bah oui, mais je suis trop bon client des jeux, des fois. Hein.
Mais des fois, c'est bien.
Faut que j'achète.
Pour Overwatch, ouais, je suis d'accord.
Non, t'es trop.
Ok. Et donc, voilà. Et donc, en fait, devant les amphis, il y avait un troisième lieu en fait où en fait des développeurs pouvaient présenter leur jeu au public. C'était un peu le rush, c'était un peu le souk vraiment au sens premier du terme, le devant des amphis, parce qu'en fait les devs ont 2 heures pour présenter leur jeu et pas une minute de plus quoi. Enfin, bon, peut-être pas exagéré, c'était peut-être pas au chrono, mais en tout cas ils avaient 2 heures pour présenter leur jeu. Et là il y avait quelques jeux étudiants, pas beaucoup parce que c'est surtout ceux du CNAM, des jeux en développement des Français qui n'étaient pas vraiment mis à l'honneur en fait dans la salle principale, mais qui ont pu quand même présenter leur jeu parce que peut-être qu'ils avaient des problèmes d'emploi du temps, etc., ou qui n'ont pas été sélectionnés. Je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. Moi, j'ai découvert plein de jeux sympas là-bas. J'ai redécouvert plein de jeux sympas là-bas, notamment du FES. Le concept de vous avez 2 heures pour présenter votre jeu, c'est peut-être le seul bémol que je mettrais à l'Indiecade globalement, parce que je trouve ça assez raide quoi.
Ouais, c'est cool.
Vous avez 2 heures. S'il y a pas la bonne personne, s'il y a pas le s'il y a une conférence intéressante en même temps, les gens vont louper le jeu.
C'est le problème des salons pour les indés. Il doit y avoir une alchimie entre celui qui va essayer le jeu et celui qui l'a vendre.
Puis là, tu loupes des gens, quoi.
Mais c'est ça.
Tu loupes des gens parce qu'il se passe des trucs ailleurs, ou tu loupes des gens parce qu'ils sont pas là à ce moment-là.
Mais ça leur permet quand même d'avoir une petite visibilité.
Exactement.
Après, il faudrait peut-être essayer de trouver autre chose, ou peut-être plusieurs en même temps.
Je pense que c'était un compromis qu'ils ont dû trouver pour pouvoir présenter les jeux en fonction de la place, en fonction des emplois du temps de chacun et tout, etc.
Mais c'est le problème.
Donc c'était vraiment. Donc les devs te tenaient la manche et faisait regarde mon jeu, il est trop bien et tout, etc. Alors je disais mais je sais, mais moi je veux voir celui qui est à côté, dans 1 heure il sera plus là, etc. Donc c'était un peu dur, mais sinon vraiment l'Indiecade, voilà, il y avait plein de jeux, plein de monde,
c'est génial,
c'est Paris, et donc voilà, ça c'est de fait, mais l'orga était vraiment super. Il y avait une cérémonie des awards à la fin, il y avait des prix qui étaient animés par le Copenhague Game Collective qui ont fait plein de jeux dans la salle, dont un jeu excellent que je vais raconter d'ailleurs parce que j'ai trouvé ça, c'est tout con, mais j'ai trouvé ça génial. En fait, ils ont fait un jeu avec le public, donc imaginez-vous un amphi comme une salle de cinéma, et en fait ils ont fait un jeu de cat and mouse où en fait ils désignent une personne devant qui va démarrer et qui va dire 4, 4, 4, 4. En gros, c'est le chat. Et il désigne une personne tout derrière dans la salle qui va dire mouse, mouse, mouse. Et c'est la souris. Et en fait, pour passer le chat et la souris, il faut toucher une personne à sa gauche, à sa droite, devant ou derrière. Et le but pour le chat, c'est d'attraper la souris.
Oh, wow. ça a l'air d'être génial.
C'est super. Ouh. Franchement, c'est super. Et on a fait 2 parties. La première fois, le type juste à côté de moi, d'ailleurs, qui est un journaliste qui s'appelle Baptiste Perron, que je salue s'il nous écoute, a attrapé. Il était le chat, il a attrapé la souris. Et c'était rigolo. Mais la deuxième fois, par contre, tout le monde a un peu mieux compris le jeu, et là, ça s'est moins bien passé pour le chat.
Ah ouais. Voilà. Mais le phénomène, ça a l'air tellement.
Donc, Indiecade, plein de bons jeux, vraiment un super lieu, super médiation, etc. Vraiment, c'était deux journées vraiment, vraiment, vraiment chouettes pour mettre les indés, enfin, qui a mis les indés à l'honneur.
Juste question, l'Indiecade Europe sera toujours à Paris ou
probablement, ouais. En fait, là, ils ont dit à la cérémonie de clôture que, en tout cas, bon, voilà, ça c'est des détails techniques, mais je pense que ça répond à ta question, que des structures publiques en fait du style la région Île-de-France, etc., va continuer à financer Indiecade sur l'édition suivante et même sur l'édition d'après, et ça se fera très probablement au CNAM.
Donc encore 2 ans d'Indiecade Europe en France. Ça,
voilà,
c'est cool.
Voilà.
En parlant de jeux indépendants,
oui,
il n'a rien à voir, mais un peu quand même. Il y a les dates qui sont tombées pour la Global Game Jam.
Oui.
Ah,
oui.
C'est quand même beaucoup à voir.
Oui, c'était pour faire une petite transition, excuse-moi.
C'est très
Donc, le week-end de mon anniversaire, je vous préviens, on est peut-être prêt à créer un jeu vidéo. Voilà, c'était pour mon annonce, comme ça vous êtes au courant.
C'est le teaser, mais moi je suis chaud.
On fait un groupe, hein. Moi j'y connais rien.
Ouais, je suis chaud.
Mais t'inquiète,
si, la chronique du geek,
ça fait 3 ans que je vous relance là-dessus. Disant,
programmation,
sympa, rigoler,
moi tu m'oublies. Hein, déjà,
voilà, moi aussi,
complètement.
Mais on peut servir des bières.
Voilà.
On peut savoir ça.
On peut gueuler sur si le GD est pas bon. Ouais, c'est n'importe quoi.
Après, on est aussi à l'ère où on peut être ailleurs et toujours travailler avec l'équipe via des réseaux de communication.
Oui,
tu es là.
C'est vrai.
Tu n'as pas le choix.
Donc comme ouais, carrément. Non mais ça peut être drôle. Donc ça tombe donc le week-end du 26, 27 et 28 janvier donc 2018. Les spots, je pense qu'il y en aura encore 2 à mon avis sur Strasbourg, hein, une partie sur Julius et une partie justement au Shadok. et ça reste un petit peu foufou.
Et comment ça se passe alors d'ailleurs? Il y a deux entités qui organisent la globale dans ces cas-là?
Alors l'organisation l'année dernière en tout cas, parce qu'il y a eu
ce split
en fait, qui expliquait que d'habitude, normalement, on a un centre par ville. Et là, oui, pour Strasbourg, l'année dernière, on a eu une séparation, il y a eu deux centres pour la ville.
Oui.
C'était séparation, c'est vraiment au niveau de l'organisation.
Hein, oui.
C'est chaque pôle, ça faisait deux ans, oui, c'est vrai, ça faisait deux ans.
Ouais.
Et chaque pôle organisait son propre événement, organiser ses propres invitations.
D'accord, ok.
Bon, après, on invite les gens et on s'inscrit. Et,
mais par contre, il y avait plusieurs teams par rapport aux deux structures, quoi.
Enfin, ah oui, tout à fait. C'est complètement séparé. Même en termes géographiques, c'était chiant d'aller du Shadow jusqu'à Ludus. C'est assez.
C'est Schiltigheim, quoi.
C'était pas. Oui, c'est vrai, c'était à Schiltigheim, en face du Pixel Museum.
Oui.
Mais ouais, ah oui, donc à mon avis, effectivement, cette année, ce sera peut-être pas forcément chez Ludus Academy, mais je pense sur la partie.
Mais en termes organisationnels, chaque pôle se débrouille. Et après, on a eu des bons retours d'un côté ou de l'autre, il n'y avait pas de soucis.
La présentation des jeux se fait toujours au Shadow, ou non, ça reste deux spots encore différents.
La présentation des jeux au Shadow, c'est ceux qui ont été faits au Shadow. En tout cas, l'an dernier, c'était le cas.
Ouais.
Et après, je ne sais pas comment ça s'est passé pour le pool organisé.
Il me semble que Elsa a été nominée l'année dernière au Global Game Jam justement pour le développement de son jeu magnifique.
Il était classe.
Ah moi j'en ai vu. Alors j'en ai deux en tête. Hein. J'ai un jeu où il y avait des pics en haut et en fait c'était on était sur des plateformes vagues qui étaient aléatoires.
C'était un jeu un peu à la Smash Bros, enfin un jeu de combat un peu foufou. Effectivement les gens se tapaient dessus, le but c'était de faire tomber dans des trous et en lien avec les waves effectivement c'était le sol.
C'était donc
qui
le thème l'année dernière.
Avec la musique en fait.
Oui.
Les mouvements de vagues rappelaient justement les mouvements des ondes sur la radio et voilà.
Et j'avais vu un jeu de la plupart de mes anciens étudiants, je crois qu'il y avait Anthony
et
Arthur.
Et Arthur,
c'était un jeu de foot où en fait il y avait un petit personnage qui créait une onde autour de lui et c'était du 1 contre 1.
Alors il s'appelait Yugi no Yokai.
Voilà. Et il y avait un magnifique sound design made in Manon, je crois. Je crois que c'est lui qui faisait les petits bruits de l'animal.
Oui. Alors ça c'était un craquage de câble à 3h du matin.
C'est toujours les meilleurs.
En gros, l'idée c'est que vous prenez le gameplay de Rocket League, donc les voitures qui poussent la balle, un gros ballon, des voitures, on peut sauter avec la voiture pour aller taper la balle en fait et l'envoyer dans le but adverse. Classique. En fait, on a repris ça mais en gameplay 2D vu de dessus. Vous avez chacun a son personnage en fait et on peut générer une onde autour de nous qui va aller pousser la balle. Plus vous êtes proche de la balle, plus l'onde va la pousser loin en fait. Et l'idée c'était de se fight pour essayer de pousser la balle dans le camp de l'autre et on avait un système de dash. Et donc une accélération. Et si on arrivait à taper l'autre avec son dash, on activait un super pouvoir qui changeait en fonction du personnage. On faisait trembler le sol qui bloquait l'autre. Ou alors on inversait les contrôles de l'ennemi. Ça c'était assez drôle, les gens ils étaient complètement perdus. Mais voilà, du coup c'était une petite tentative qui était assez sympa je trouve. Enfin moi j'en étais content.
C'était rigolo comme tout.
Il y a une petite news que j'ai qui vient de tomber là cet après-midi. Fanatique de Bancor, j'aime tellement ce jeu qu'il faut que j'en parle quasiment tout le temps. Windjammer, ça y est, bon, j'étais déjà au courant. Hein. Enfin, j'étais déjà au courant. Non, c'est pas vrai. Ne m'écoutez pas. Mais j'avais posé la question justement l'année dernière.
À Gamescom,
au responsable projet donc du jeu. Est-ce qu'il y aurait une version CD? Peut-être. Donc à partir du moment où tu me dis peut-être, c'est que
c'est
oui.
C'est oui.
Et donc effectivement, ça a été annoncé aujourd'hui. Donc la version Limited Run sort, qui sera donc le 41e. Jeu sorti sur Limited Run, donc qui vous permettra d'avoir une version CD de Windjammers qui sortira pour la modique somme de $29.
Et il y a une édition collector, non, avec une box. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai vu ça aussi.
Avec une box.
Ouais, il y a une espèce de.
Ah oui, normalement, il y a effectivement.
Attends, j'allais voir au moins frisbee, t-shirt et ce genre de trucs. Ouais,
hein. Bah, Limited Run, ils font pas mal.
Et des poils de Kekun aussi.
Ah, peut-être. Ouais, peut-être.
D'ailleurs, sur quelle plateforme déjà?
Kekun qui sera là présent dans 13 jours pour la Batcade.
J'espère, attends, c'est peut-être plus que moi.
Non, pas plus, mais la semaine prochaine, si tout se passe bien, on recevra donc en invité donc Kevin, l'organisateur de la Batcade. Si tout se passe bien, il m'a répondu tout à l'heure que logiquement il serait là. On pourra en savoir un peu plus sur ce gros event qui a lieu chaque année à Strasbourg à la Maison Bleue.
C'est 3 jours cette année, si je me trompe.
C'est 3 jours, 3 jours de tuerie, 3 jours de dose, 3 jours de
1 2 3 décembre.
C'est ça.
Ah oh merde, tu
soleil.
Eh bah ouais,
3 décembre Maison Bleue.
Donc cette année, on va pas se polier, mais comme d'habitude, il y aura effectivement un tournoi organisé sur Windjammers, il y aura un tournoi sur Street Fighter 2X et un tournoi un peu secret qui a été dévoilé.
C'est pas secret, mais personne connaît le jeu.
Mais personne connaît le jeu, c'est exactement ça. Qui sera Congo Bongo, non?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Oui, Combo Bongo. Ouais,
c'est ça. C'est ça. Donc du coup, on a hâte de voir ça. En tout cas, on espère recevoir Kevin donc la semaine prochaine. Un petit son là, histoire de faire un petit break, 30 secondes, et puis on reviendra tout de suite pour parler du à quoi tu joues. Et puis
lancer peut-être un petit débat aussi.
Alors, on est chaud. Allez, tu sais quoi, sinon on peut même lancer le débat tout de suite, parce que finalement il nous reste 30 minutes de 25 minutes d'émission.
Lance une petite musique.
Tu veux quand même.
Et après, on est reparti.
Ok, bon bah écoutez, on se retrouve tout de suite, le temps que je trouve un son à lancer, ce qui est un peu plus compliqué.
Mais non. Allez, courage, Nishan, on croit.
Non, mais j'y crois.
Ça cause d'Arthur, parce qu'il t'a coupé.
Non,
il voulait lancer le débat et du coup il était perdu, et c'est à cause de toi que là il y a eu un moment de gêne et de blanc. Mais on applaudit tous Arthur, même si vous avez votre voiture, vous lâchez le volant et vous applaudissez.
Bref, on se retrouve dans quelques petites minutes avec un petit son. Encore, on continue avec Megaman X. C'est un medley, voilà, tout ce que vous avez pu entendre depuis une heure et demie, ben on a fait un medley à la guitare et ça donne ça. Qu'est-ce que c'est doux à écouter. C'est tellement beau. Qui sait, comment il s'appelle l'artiste Elsa?
C'est Family Jules,
Family
je crois.
Jules, ouais. Donc il reprend énormément de titres de JV.
Tout à fait.
Qu'il reprend à sa guitare. C'est juste exceptionnel. Franchement, c'est très très beau. On voulait lancer un petit débat là qui est tombé quand? C'est aujourd'hui?
Hier ou avant-hier?
Hier ou avant-hier?
Ouais, ça date de 2-3 jours.
Bah, je te laisse lancer, Arthur, parce que moi j'ai pas forcément suivi, mais.
Ok, bah alors en gros, pour recontextualiser, c'est donc le youtubeur Squeezie.
Correct. Désolé, sorti tout seul, j'ai un réflexe.
Donc Squeezie, on aime, on aime pas, c'est pas le débat. L'idée, c'est que Squeezie a été invité donc sur. J'ai plus le nom de l'émission avec Thierry Ardisson.
Salut les Terriens.
Salut les Terriens.
Salut les Terriens avec Thierry Ardisson et Laurent Baffy. L'idée c'est ouais. qu'il était donc sur le
gros plateau. Journaliste déjà dès le départ.
Ah bah là, on est à un niveau.
On est au top, c'est sur C8 ou D8 de toute façon, donc voilà, on a le niveau.
Patrick Sébastien, on est bon là, je
crois. Plus sur Canal Plus.
Ah non.
Ah,
ouais. Ah non, il a plus
le niveau. Non, mais moi j'ai rien suivi. Non, mais c'est à quel point on suit la télé. Et bon, la télé c'est devenu intéressant.
En gros, l'idée c'est qu'il était sur le plateau et Ardisson donc l'a accueilli dans l'émission en parlant de son métier. Et a lâché toute une flopée. Ça a duré quoi, 6-7 minutes son temps de passage à l'émission. Et ces 6-7 minutes étaient en fait une série, une collection, vous pouvez les afficher dans votre chambre, de remarques complètement
déplacées.
Mais il y avait de la, il y avait un ton très hautain. Il y avait vraiment ce côté, il y avait un malaise, parce qu'en fait on avait d'un côté un dinosaure de la télévision, Thierry Ardisson, qui sort tous les clichés possibles et imaginables sur l'univers de YouTube et des gamers, en les prenant vraiment pour des demeurés, des gens bas en termes de culture et...
En gros, ce qu'il disait, c'est que Squeezie, c'était un génie parce qu'il arrive à gagner sa vie en jouant à des jeux vidéo et des gens qui regardent ses vidéos, et que via les pubs, ben, il arrive à toucher sa vie. Enfin, à gagner voilà. sa vie comme ça.
Donc, et on va en citer encore 2-3 comme ça juste pour les dire, et après on va lancer ouais. le débat. L'idée, c'est que par exemple, Squeezie a été invité à cette émission pour parler notamment de son nouveau livre qui sort, qui s'appelle Tourne la page, et donc une des remarques c'était que le livre s'appelait Tourne la page pour que l'auditoire de Squeezie puisse comprendre comment fonctionne un livre. On a eu d'autres choses, par exemple le métier de youtubeur c'est quand même de se filmer à jouer des jeux vidéo. Si ça se trouve, moi je pourrais arrêter la télévision et manger une pizza, me filmer et gagner de l'argent grâce à ça. Voilà, c'est que des remarques comme ça qui ont été très injustes en fait envers une communauté qui vit sa vie et qui ne veut pas se comparer à la télévision. C'est un autre média. Et là, on sent vraiment la télévision qui est malheureusement, on va en discuter, hein, en déclin ou pas, j'en ai quand même l'impression, et qui essaye d'enfoncer avec elle ce nouveau média qui est YouTube et qui est florissant avec une énorme communauté.
Alors, je veux juste truc aussi, c'est ce qui m'a beaucoup fait rire par rapport à ce qu'il a dit Squeezie, et ça se voit que s'il a fait plusieurs plateaux télé, que maintenant il arrive à leur répondre, parce qu'avant il avait du mal, par exemple, il a déjà été sur Canal, il n'arrivait pas à répondre comme ça, parce qu'à un moment quand même Ardisson lui a demandé de celui en train de manger tout ça, voire baiser, excusez-moi du terme, mais c'est Ardisson.
C'est vrai.
Et là il y a Squeezie qui a très bien répondu, et c'était juste mais parfait. Il a fait non mais ça on laisse ça à la télé-réalité, on s'abaisse pas à ça sur internet.
En fait,
il a parlé de télé. Il a dit, on laisse ça à la télé, sur internet, on s'abaisse pas à ça. Et j'ai juste trouvé ça absolument parfait. Et là, je pense qu'Ardisson, il ramasse encore ses dents aujourd'hui.
Ouais, et puis pour ça, il y a Chatroulette, et puis le reste. Ouais.
Mais voilà, mais c'est pas YouTube. Enfin, je veux dire, c'était ultra déplacé de comparer justement quelqu'un qui fait des vidéos montées, où justement il dit, on fait du travail de montage, tout ça. Dire, oui, non, mais est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça? Non.
Alors, moi qui suis clairement, tout le monde le sait, je pense que je démonte un peu les YouTubeurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu ça l'histoire, enfin l'image même qu'il reflète, c'est-à-dire c'est des mecs qu'on voit qui sont payés pour jouer à des jeux vidéo entre guillemets. Mais je suis désolé, il y a quand même un taf de dingue, ne serait-ce que en préparation, c'est quand même très très long. Et ensuite toute la partie
montage
vidéo et compagnie.
Ils écrivent, ils tournent, ouais. Ils montent, ils éditent une vidéo. En fait, ils font tout le travail d'une chaîne de télé mais tout seul.
C'est exactement ça. Et voilà. Et par contre, ils arrivent à faire beaucoup plus de buzz qu'une émission comme Ça veut rien ou des choses comme ça.
Mais c'est fini la télé.
Non, mais c'est vrai, il a pas tort,
Bah, c'est fini. C'est pas encore fini au jour d'aujourd'hui, mais
non, faut buter sur rien. Je veux dire
dans 10-15 ans, c'est un truc qui est à ramasser la petite cuillère.
Mais c'est ce que disait Thierry Ardisson.
Peu importe le sujet.
Hein. C'est ce qu'il disait lui-même. Il disait que c'était vraiment un média, on n'a plus l'habitude. Squeezie a très bien répondu à ça d'ailleurs. Il a dénigré la télévision devant Squeezie exprès pour lui dire, hey, t'as vu comme t'es meilleur. Et limite l'insulter pour dire t'es fier maintenant parce que la télé est meilleure que est morte et que YouTube est meilleur. Donc ce que je dis a très bien répondu parce que l'idée c'était Ardisson avancer le fait que la télévision c'est un programme à une heure précise et il faut que se mettre devant son poste pour assister à l'émission. Ouais. Squeezie lui a répondu oui mais sur YouTube en même temps c'est la même chose. Sur mon réseau social je dis ce soir 20h nouvelle vidéo et que fait
le
monde.
Que
fait le monde, il regarde.
Il y a une hybridation maintenant, c'est en gros la VOD et la télé connectée.
Bien sûr, ouais,
quoi.
C'est ça.
En plus. Mais sachant que sur YouTube aussi, il y a ce côté. Alors, sur YouTube, ça découle du média. On peut le regarder à l'instant T. La vidéo sort. Des fois, il y a même des vidéos live et on assiste au moment. Et on peut le regarder bien plus tard. 4 ans après, je peux regarder de nouveau le clip de machin.
Après, YouTube.
La télé est principalement désertée aussi à cause des histoires de pubs que tu retrouves moins en replay. Bon, après, maintenant, il y a certaines chaînes qui font quand même de la pub en replay. Ils en balancent à gogo. Mais c'est pas forcément le cas partout. Enfin, moi, je vois la différence entre. Mais je sais pas si c'est les fournisseurs qui font que ça change. Mais quand j'étais chez Numericable, j'avais pas de pub pour une chaîne. Et en passant chez Orange, par contre, j'ai des pubs pour la même le replay de la même chaîne.
Sur la vidéo, sur la VOD,
sur du replay.
Ah, sur du replay, ouais, c'est possible. Ah oui, complètement.
Donc, ça doit être aussi à voir avec les fournisseurs.
Après,
Internet, ou
bien sûr,
après, machin,
faut
le replay.
Logique,
doit être...
on ça reste quand même. On se lance dans les mots forts en disant que la télé est morte, etc. Oui, c'est vrai, mais après. Les dérives qu'il y a à la télé depuis X années, on peut choisir son année pour te cibler les quand on trouve que la télé a dérivé. Sur YouTube c'est encore extrêmement libre, on peut uploader absolument ce qu'on veut. Mais peut-être que dans 10-15 ans, YouTube ce sera plus ça. YouTube ce sera un truc. YouTube, il faudra peut-être payer pour mettre ses vidéos dessus, quelque chose comme ça. Donc ce sera peut-être une espèce de chaîne de télé en ligne où les gens devront payer. Là pour le moment c'est encore très libre et ça fonctionne comme ça le modèle économique. Ça fonctionne très bien d'ailleurs.
Mais ça marchera que comme ça. Pourquoi faire payer YouTube aujourd'hui? On aura de moins en moins de personnes.
Mais il y a YouTube Red déjà. Il y a déjà un YouTube payant. Enfin YouTube Red, il y a des contenus qui sont associés à YouTube Red. C'est un abonnement je crois de 5€ par mois. Mais le truc c'est que ça ne marche pas parce que t'es sur internet. Justement, alors il y aura évidemment ça va commencer à payer. Et le truc c'est que de toute façon, il y a des gens, si jamais un jour on dit aux youtubeurs vous êtes obligés de payer pour faire ça, vous êtes obligés d'être passé en payant. Dans ce cas-là, ce qu'ils vont faire, ils vont juste aller sur un autre site parce que les gens ne sont pas affiliés, ils sont pas payés par ici, ils sont payés par YouTube, mais s'il y en a qui profitent d'autres moyens de se financer comme Tipeee ou ce genre de choses où du coup ils reçoivent des dons de gens pour essayer de vivre et du coup en fait, ils s'en fichent de la plateforme. Et c'est pour ça il y en a ils font plus de Twitch que de YouTube et on les traite comme de youtubeurs entre guillemets parce qu'ils mettent 3 replays dessus toutes les 2 semaines. Mais donc voilà, c'est ça. C'est très loin du même modèle et on est sur un modèle beaucoup plus libre et on va payer les gens, en fait on va donner de l'argent aux gens à qui on a envie de donner et on va pas payer un lot de chaînes parce qu'on paye un bouquet de chaînes, on s'en fout, on regarde pas les 3/4.
C'est vrai que c'est vachement plus individualisé dans ce sens là ouais, c'est sûr.
Après il y a aussi un côté, on dit avec des grands mots comme tu disais juste avant que la télé est morte, dans son état statique tel qu'il est depuis X années, ok, mais par contre il y a la télé qui fait déjà ça aujourd'hui très bien. Les chaînes d'information, ce genre de choses, on peut toujours regarder des reportages qui sont arrivés à un instant T à la télé, mardi 19h, on peut toujours les regarder en replay sur internet. Et c'est là où la télé va devoir continuer à évoluer dans ce sens-là. C'est ce côté hybride peut-être, le côté j'ai ma télé, le soir je me pose, je suis fatigué, je rentre du boulot et j'ai mon émission et je l'ai raté, je peux
le
la regarder sur
internet. Le côté accessibilité comme internet au final, regarder ce que tu veux quand tu veux à un moment donné.
Bon, c'est le côté nomade qu'on a de notre culture qui se
Le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes ton émission de télé, tu n'as pas le choix. Tu veux regarder, tu zappes TF1, et ben, t'auras, je sais pas quelle émission qui va passer, tu seras obligé de la regarder. Alors que YouTube, aujourd'hui, tu peux voir ce que tu veux à n'importe quel moment. Ouais. Tu n'es pas obligé de rester fixé à regarder ton émission que t'as pas envie de regarder. Mais... Et tu vas zapper, tu vas changer de chaîne, et tu auras exactement le même nombre de programmes que tu n'as pas forcément envie de regarder. Et au final, tu vas te retourner vers d'autres trucs comme YouTube. Tu regardes aujourd'hui les constructeurs télé, regarde, c'est tellement bête, hein. Je te parle juste de télé, je parle même pas de box. Aujourd'hui, avec les systèmes qui sont intégrés dans les télés, tu as une espèce de menu, de dashboard, qui te permet même d'avoir YouTube, Twitch intégré à ta télé. Ouais, donc au final, c'est quoi l'intérêt de regarder ta télé? Finalement, t'en as plus.
C'est la taille de l'écran, en fait.
C'est comme un système.
Ouais, c'est exactement ça.
C'est comme un système avec Netflix. La puissance de Netflix, c'est pas les films.
Il existe déjà. Et c'est français, ça s'appelle Molotov TV.
Je sais pas de quoi tu parles.
C'est une application.
Là, là, là. C'est quoi ce truc de
pirate? Molotov, alors, il y a pas toutes les chaînes dessus pour l'instant, mais il y a les chaînes publiques et pas mal d'autres chaînes. Et en fait, il y a des chaînes gratuites, il y a des chaînes avec abonnement. Okay. Et en fait, t'as accès à tous les contenus que tu veux. Alors, certaines chaînes, par exemple, bloquent pour une semaine après, comme sur leur site de replay. Ouais. Mais t'as accès à un bouquet de chaînes beaucoup plus large que par exemple juste avec le M6 Replay, et ça s'appelle Molotov TV, et c'est une application donc qui est sur mobile mais qui est aussi sur la Smart TV, ce genre de truc, et c'est entre guillemets le Netflix des chaînes de télé.
D'accord. Moi ce que j'allais dire justement, c'était un poil différent, c'était juste le fait que le soir j'allume la télé et je me dis je vais me faire un film. Je regarde ma mosaïque, et je regarde tous les films de la soirée qui sont prévus.
Mais c'est ça.
Et en fait, en regardant, bah c'est pénible parce qu'on dit bah cette chaîne, bah c'est mort, ça me plaît pas. Cette chaîne, bah je veux pas. Cette chaîne, ah ouais, je l'ai déjà vu, ce genre de choses. Alors que Netflix, on a le choix.
Mais là, c'est le choix.
C'est là la puissance.
Mais c'est à dire que tu peux regarder des trucs dans la journée, tu peux voir ce qui est déjà sorti, tu peux enregistrer, te mettre une alarme pour dire ok, faut enregistrer ça, tu me le mets de côté, je le regarderai plus tard.
Ça existe depuis longtemps. Ouais.
Ouais, mais du coup, ça c'est sur Molotov. Enfin, ils ont tout réuni, tout ça, tout ce qui.
En une seule
application, et c'est vachement bien foutu. Pour avoir un peu utilisé, c'est vachement bien foutu.
Okay.
Vraiment.
Pour revenir un peu au débat justement qu'il y a eu entre ces deux personnes là, en même temps on prend un mec qui effectivement comme tu disais tout à l'heure un dinosaure de la télé qui ne vit que pour ça, et demain si la télé est morte son poste à lui aussi il crève, hein.
Oui tout à fait,
pour lui aussi il va mourir, hein.
Parce
hein
oui bien sûr,
parce qu'on pourrait partir à la retraite,
on lui souhaite pas, hein. Enfin moi je trouve qu'il faisait des super, tout le monde en parle à l'époque, pour ceux qui ont connu, putain je me sens vieux en disant ça, il y avait vraiment, enfin 90% des émissions elles étaient vraiment très très bonnes quoi, parce qu'il posait des questions pertinentes, il dressait des portraits pertinents des invités, il y avait les gens qui était pertinent à l'époque, qui était invité, il avait pas peur de d'inviter vérité, certaines personnes, etc. Des gens polémiques déjà à l'époque pour qu'ils puissent s'exprimer, etc. Oui, Tishan.
Non, vas-y, je termine, je continue ensuite.
D'accord. Et donc oui, et là maintenant, c'est vrai. En fait, c'est assez rigolo que Ardisson fasse la morale à Squeezie en disant qu'il s'abaisse entre guillemets à jouer à des jeux vidéo, alors que enfin à streamer des parties de jeux et qu'il fasse des millions de vues comme ça, alors que lui s'abaisse là à de l'insulte pure et dure, ah bah, en fait de
la condescendance.
Moi je pense que c'est peut-être même plus elle pousse aller un peu plus loin. Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être une forme de jalousie.
Oui, ah bah oui, non mais complètement. Mais c'est le crachat du
ce mec là,
c'est Cobra mourant
à la
quoi.
À la base officiellement c'est un peu dégueulasse, mais aujourd'hui c'est un mec qui est un journaliste à la base, hein, qui a fait des études pour ça, qui a peut-être même une carte de journaliste entre guillemets.
À la base, il était publicitaire quand même, ce mec.
Ouais, voilà. Du coup, du jour au lendemain, il est arrivé sur un métier de journaliste, clairement.
Oui.
Aujourd'hui, oui. Squeezie fait plus de vues que lui, sans lettre.
Et il a le bac.
Ouais. Voilà, c'est exactement
non, mais
ça.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, je pense que même
n'importe qui
aujourd'hui peut gagner sa vie en se prétendant pseudo journaliste, parce qu'il a fait quoi ? Une analyse d'un jeu vidéo. Il a débattu, il a créé un argumentaire autour du jeu. Et en plus de ça, il fait des vues et il gagne de l'argent. Et ben, je suis désolé, c'est exactement pareil. Sauf que eux, aujourd'hui, ces mecs-là, qui sont des dinosaures de la télévision, n'arriveront jamais à avoir ce même réflexe-là.
C'est vrai. Non, du nombre de vues et de personnes qui le suivent, c'est vrai. Après, qu'est-ce que c'est la différence entre le journalisme et le commentaire,
du divertissement,
c'est même pas un commentaire, parce que commenter c'est aussi faire du journalisme à un streamer lambda, je prends vraiment le plus
c'est
basique
nom,
celui
pas,
qui n'est pas journaliste, la différence entre les deux c'est que le streamer lambda qui va décider de tester un jeu parce qu'il l'aime bien, et ben il dira pas du mal du jeu. C'est ça le problème en fait, c'est que des fois il y a des défauts, que des fois les jeux sont pas bons, et qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ne sont pas des journalistes qui disent pas ce qu'il y a de pas bien.
Ouais.
Et ça c'est pas bien. Non mais c'est vrai.
Non, mais...
C'est comme là, il y avait un truc.
C'est des influenceurs en fait.
Voilà.
C'est une nouvelle caste.
Non mais moi
c'est
je connais
qu'un journaliste. En
je
fait,
connais
pour...
des influenceurs qui disent du mal des jeux
oui,
quand
mais
c'est pas bon.
Oui mais il y a quand même...
et qui peuvent se prétendre journalistes.
Après il y a plein de ceux qui sont vraiment les plus jeunes qui veulent pas perdre leur pouvoir entre
guillemets. Oui voilà c'est ça.
Et perdre leurs
avantages. Donc ils préfèrent parler
des
trucs que des trucs qu'ils aiment bien.
Si on parle de pareil, là on est en plein dedans, nous en tout cas dans l'équipe de la chronique. Demain, il y a je sais pas n'importe qui, je donnerai pas de nom parce que voilà, on s'en fout, qui va nous balancer un jeu en disant voilà, tenez, je vous offre un jeu chacun, voilà, vous le testez et puis vous en dites, vous avez intérêt plutôt à dire du bien du jeu parce qu'on vous l'a quand même offert.
Ouais,
aujourd'hui,
oui.
C'est ça la carotte.
Oui, bah oui,
tout à fait.
Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, même autour de la table, on sera tous friands de recevoir un jeu et pas de forcément le tracher, parce que tu dis bon ben ton moyen de rémunération t'as reçu ton jeu gratos, mais après c'est très compliqué
pas
de
le tracher, mais j'avoue que j'aurais quand même du mal s'il y a vraiment des gros
dire
défauts au jeu
pour...
voilà
ouais
je...
bien sûr voilà c'est ça
j'aurais
il faut
quand même du mal
par
à
contre
passer outre,
tu vas pas
quoi,
le flinguer dire, publiquement
oui, voilà.
ce jeu parce que voilà
ça dépend du comportement des éditeurs, hein. Il y a des éditeurs qui se disent bon
le bad buzz, c'est du buzz quand même. Il y a des éditeurs, ouais, qui peuvent prendre la mouche. Ouais.
T'as reçu le coup de fil de
Il y a même des devs qui peuvent. Il y a même des devs qui peuvent prendre la mouche.
J'ai coupé mon téléphone.
Je vous rappelle juste, pour tous ceux qui aiment Heavy Rain hein, et David Cage, je vous rappelle juste qu'à l'époque où est sorti le jeu s'est fait descendre et il a chouiné, hein, David Cage. Hein. Ouais. Et le mot, c'est un euphémisme. Hein. Mm-hmm. Il était pas content. Hein. Et je trouve pas ça normal en fait quoi. Je trouve pas
que David Cage soit pas content.
Ouais, je trouve pas ça normal qu'il soit pas content si on dit que son jeu avec des arguments
pertinents
fondés hein. Qui disent que ouais,
c'est quand même relativement compliqué. Après, t'as bossé sur un jeu.
Je suis d'accord. Je sais très bien ce que c'est que le travail d'un artiste, etc. Mais quand t'es un artiste et même si t'as travaillé 3 ans, 5 ans, 9 ans, 10 ans sur ton jeu et qu'il y a des gens qui disent dans ce jeu, il y a quand même ça qui est pas terrible avec des arguments derrière. Pleurer, c'est quand même pas terrible quoi.
Non, c'est clair.
C'est quand même pas terrible. Tu en prends.
Accepter la critique après.
Il y a un dev qui est venu au FEFS. Il y avait son jeu. Il a pas reçu de prix. C'est un mec qui a tout écouté et qui a pris des notes. Tous les membres du jury. Hein. Il a dit ouais, alors qu'est-ce que t'as pas aimé dans mon jeu? Il a pris des notes et il corrigera. Il s'adaptera.
Ça, c'est la meilleure des approches à faire par rapport à son propre jeu.
Ouais.
Ça, c'est très intelligent.
Ouais. Écouter les critiques.
Pour reprendre ce que t'avais dit avant avec ton air de vieux con.
Ouais. Qu'est-ce que j'en ai dit pas mal des trucs comme ça.
La télévision à l'époque avait des émissions pertinentes et très intéressantes.
Encore maintenant,
mais c'est plus rare. Mais je te rejoins là-dessus. J'ai découvert l'autre jour, pour revenir sur le débat, une chaîne sur YouTube qui s'appelle Click, que je vous invite à découvrir. C'est pas de la publicité, hein, c'est juste que j'ai bien aimé le contenu. Click, en gros, j'ai l'impression de voir la télévision sur YouTube, dans le sens où c'est des interviews. C'est on invite des stars pour parler avec eux, savoir comment ils fonctionnent et savoir ce qu'ils pensent de la vie et de l'amour et de la mort, voilà, en gros. Mais bref, c'est des discussions avec des têtes qu'on connaît tous. Par exemple, il y a eu Aurel San, il y a
c'est
eu Omar Sy.
C'est pas l'émission de Moulachour?
Si.
Ah oui, c'est ça.
Je
crois qu'il me faisait découvrir un truc dingue.
Non, mais justement. Et en fait, l'idée, c'est que j'avais vraiment l'impression de dire, putain, c'est comme si que je m'étais posé à la télé, qu'il y avait une émission vachement sympa à regarder.
À la base, c'était Canal Plus.
D'accord. Ouais, ouais. Mais ce qui est vraiment sympa et que j'ai ressenti, et moi je l'ai découvert par rapport à YouTube, donc en gros c'était exacerbé, mais il y avait ce côté, si Aurel San ou si Omar Sy ou si Trucmuche avait envie de dire merde et avait envie de dire son point de vue, et ben il y avait pas de retenue dans cette émission.
Ben ça c'est la grosse force de Click, c'est justement ça, parce que Moulachour c'est un mec qui est pareil. Hein. Moi je suis sur les réseaux sociaux, il te dit si c'est bien ou si c'est pas bien, s'il a aimé ou pas.
Mais
il te dit ouvertement. Et ben en fait
intègre,
ce qu'il fait, toute
c'est
sa force aujourd'hui. Ouais, complètement.
Et la chaîne est vraiment intéressante là-dessus. Et j'ai vraiment, je répète, l'impression d'avoir la télé sur YouTube, mais dans le caractère culturel et intéressant quoi.
On va aussi peut-être beaucoup modérer ce qu'on dit sur la télé depuis tout à l'heure, c'est qu'on dit que la télé est morte, mais bon, la télé est morte pour, on va dire, la grande majorité de la population, c'est-à-dire les 0-45 ans. Quoi.
Oui.
Après, évidemment, il y a encore beaucoup de gens. Et encore, moi, j'ai mon père qui a 60 ans, lui fait du dual screen en fait. Il regarde la télé, il regarde des vidéos sur YouTube, sur l'iPad. Non,
c'est
véridique. Hein.
C'est énorme.
C'est la transition en fait, peut-être.
C'est énorme. Et ce que j'aime aussi par rapport à la télé, désolé Elsa, juste dernier truc, c'est vrai que j'ai la flemme de devoir me farcir de la recherche moi-même sur le net pour par exemple avoir des news sur Le Monde. C'est vrai que c'est pratique le soir en rentrant d'avoir les infos, même si les infos sont critiquables, tout ça on n'en parle pas, j'ai les infos, elles sont là, je sais à peu près ce qui se passe dans le monde. C'est un avantage à la télé, on peut pas lui retirer.
Oui, après bon, les infos sont aussi sur les sites internet d'infos tout le temps.
Ah oui, mais c'est ce que je dis, j'ai la flemme de me connecter
et même sur Facebook sur internet. Et
oui, tout à fait,
surtout
Elsa. Une dernière chose à dire, Elsa?
Moi je voulais juste revenir sur ce que disait Théo tout à l'heure sur le fait que ce qui était dommage, c'est qu'il y a donc des gens qui sont pas journalistes, qui stream, qui jouent aux jeux vidéo et tout ça. Mais j'allais te dire qu'en fait, la plupart des streamers, mis à part ceux qui vont vraiment décortiquer, hein, qui précisent, je fais une analyse game design ou machin ou truc, les autres, ils sont juste là pour streamer et c'est du divertissement, en vérité.
Oui,
c'est pas de l'info.
Oui,
c'est,
oui,
c'est
non, mais de toute façon, en plus, ça, c'est la grande majorité même des streamers, hein. C'est pas des journalistes, quoi.
Je sais pas si du coup en général c'est marqué chez eux que c'est le cas, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça part plus du divertissement.
Oui,
et
oui,
après tu prends un peu ce que tu veux prendre.
Bah, ils parlent de ce qu'ils aiment bien en fait. Voilà. Quoi. C'est très bien aussi de parler de ce qu'on aime bien.
Bon bah écoute, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est l'heure.
Oui, ça va.
En tout cas, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 91.9 FM, l'émission C'est Work Less Play More. Et on vous souhaite à tous une très très bonne semaine. À très bientôt.
Bonne soirée tout le monde.
Salut.
Ciao.